Nous sommes mardi 6 novembre 2024, tout espoir n'est pas perdu pour le monde libre et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Je sais ce qui nous dit ta gueule et mes tétris.
Séquence break. Séquence break le conducteur.
Ah, alors là, c'est le plus. Là, c'est un skip direct avec la RAM. Hein. C'est un speedrun de OT. Hein.
Il va falloir qu'on en parle.
Mais bordel.
Ce soir dans le Dojo Bar, pour fêter dignement. Alors déjà, un petit truc.
Yeah.
Ça c'est important. C'est la bière de réconfort, on en a bien besoin aujourd'hui.
Oh, pourquoi ? Il n'y a pas eu grand chose d'important aujourd'hui ?
Non. Non. Jamais de la vie.
Il n'y a pas eu
aujourd'hui,
hein.
Aujourd'hui, rien.
Aujourd'hui, ça, rien.
Laisse-moi être dans le déni, s'il te plaît.
On va rester dans le déni, ça vaut mieux.
Credit pour... rien.
C'est credit rien. On peut s'arrêter là, du coup. C'est bon. Bah ça me rappelle la fameuse chaîne. Ah
infâme vieux.
Ne vous inquiétez pas, nous avons besoin d'évacuer un certain nombre de choses, mais ça va bien se passer. C'est les meilleures émissions, celles où il y a du stress, hein. C'est celles qui marchent le mieux. Bref, sur une suggestion de Monsieur Fulgence, qui
c'est
nous a
pas
demandé...
vrai. C'est pas vrai du tout.
Si.
Je vous ai pas dit de faire ça parce que j'ai pas eu le temps de m'entraîner pour faire un speedrun il... tout boiteux.
Non, non,
de Super
non, excuse-moi,
Metroid,
tu nous as dit, voilà, il mange les chiens, il mange les chats et Super Metroid fête ses 30 ans. Voilà, donc Super Metroid fêtant ses 30 ans. Alors, cette année, je sais plus exactement la date d'ailleurs, on a
mars au Japon.
Voilà.
Je crois que c'est novembre chez nous.
Non.
Ah bon, apparemment, c'est juillet.
Ah merde.
Ils ont été rapides sur la loca, bon en même temps il n'y a pas grand chose à traduire.
Pas grand chose à localiser. Puis surtout il a pas été localisé.
Même l'intro est en anglais à la base. Bon.
Si, ils ont rajouté des sous-titres par-dessus le texte.
Non.
On se croirait sur un documentaire MTV, c'est incroyable.
Non.
Je l'ai refait la version européenne et j'ai vu ça, je fais oh mon dieu.
What the fuck? T'es sérieux?
Oui.
Putain, je l'avais pas vu. Pourtant j'ai la cartouche et tout. J'avais pas fait gaffe. Ah, j'ai peut-être pas la cartouche française en fait. Bon, bref. Parenthèse, voilà. Donc Super Metroid, parce que c'est les 30 ans, et parce que il faut arrêter maintenant avec la fraude au Metroidvania, c'est juste un Metroid-like, et nous essaierons à partir du
tout
moment
à fait.
D'appeler ça un Metroid-like.
On n'a pas envie d'associer Konami à Metroid.
C'est un peu ça, les échecs restent avec les échecs. Mais nous allons commencer tout de suite par notre traditionnel tour de table de l'actualité, et je vais donner tout de suite la main à Monsieur Mecton pour Nintendo Music, qui n'est pas un remake de Wii Music.
Non, eh ben écoute, j'ai cru, quand j'ai vu pop la notif, je me suis dit, ah tiens, ok, ils osent, pourquoi pas. Et en fait, non, donc c'est simplement Nintendo qui se rappelle qu'ils sont assis sur un capital sonore pas dégueulasse, quoi. Et donc, bah, ils nous ont sorti leur version de Spotify. Alors actuellement, on n'a pas forcément un catalogue super super lourd, mais la petite fonctionnalité rigolote, c'est que si une musique vous plaît, il y a une petite fonctionnalité, genre fais-la moi tourner en boucle pendant 10 heures.
ce qui pour la chaîne, oui, enfin le
ah, pour le menu, oui, c'est fantastique.
C'est quand même
ouais.
Fantastique. Ouais.
Ouais, ça aux chiottes, je vous conseille, ça détend. Sinon bah voilà, des petites fonctionnalités de téléchargement local, d'écoute avec l'écran du téléphone verrouillé, ça c'est un des premiers trucs que j'ai regardé parce que c'était pas gagné avec eux. Et voilà, le catalogue s'étoffe petit à petit. Petite fonctionnalité marrante aussi, si vous êtes sur un jeu en train de faire, vous pouvez dire ne me spoil pas. Donc ça va planquer certaines musiques. Quoi.
Intéressant ça.
Ça c'est sympa. C'est calé, donc il faut être abonné Nintendo Switch Online.
Ouais, et ça c'est nul.
Ouais.
Alors, bourgeois plus ou bourgeois standard?
Non,
bourgeois
classique. Standard. Classique.
Oh bah c'est pas si mal.
Bleb.
Et ce qui est rigolo, c'est que t'as...
On a donc Nintendo Switch Online Pleb, le bourgeois et le bourgeois plus. Ouais, c'est ça que j'ai retenu. Hein.
Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc comme c'est câblé sur votre abonnement, ça va regarder sur votre compte à quoi vous jouez et ça va potentiellement proposer des playlists préconstruites rapport au dernier jeu que vous avez lancé. Quoi.
Ah, seul truc dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis les compositeurs. des musiques.
Oui, c'est vrai.
Ah, c'est con ça, parce que ah, ça, pour le coup, c'est pas toujours très clair, donc ça aurait été bien de l'avoir.
Bah, surtout que pour certains jeux, en fait, on les connaît, donc t'es là, genre, bah, pourquoi vous emmerdez
en fait, c'est vrai qu'on pourrait le faire. Enfin, c'est vrai que ça fait partie du truc un petit peu dommage, même si c'est une info un peu planquée, qu'il y a une pop-up, un machin, un truc, ça pourrait quand même être...
Après, c'est toujours...
Enfin, c'est très standard, en fait, dans une appli de musique, de mettre les créateurs de la musique, donc en fait...
Des crédits, quoi.
Ça viendra sûrement, je pense.
Oui, dans 5 ans.
Oui, voilà.
Non, ah, ça viendra après le petit lien qui t'envoie sur l'eShop.
Ah, exactement, et après qu'ils aient fait, à 10 ans après, ils feront une espèce de DLC avec 48 pistes en plus... et voilà, et après ils mettront le titre, enfin les auteurs.
Ça va bien se passer. Tout va bien se passer.
Ils rajouteront des personnages.
T'es avec Wish Funky Kong. Bref. On va reparler un petit peu de Alarmo, je sais pas si vous vous rappelez, c'est le truc débile.
Ah bah l'autre truc avec le capital sonore, tiens.
L'autre truc, dans quel putain de topic on va ranger ça?
Dans les gadgets amusants qu'on aura oublié dans un an.
C'est un peu ça. Donc le fameux réveil connecté, interactif, tout ça de Nintendo, qui apparemment il compte vraiment vendre à 100 balles l'unité. Hein.
Putain.
Et où tu peux te réveiller avec Link, Link, réveille-toi. Et puis après t'as la musique du gardien si jamais tu te réveilles pas. Donc je dis pourquoi pas. Eh bien il se trouve qu'il y a des gens qui se sont amusés à le décortiquer et à faire tourner Doom dessus, bien évidemment.
Évidemment.
Because why not?
Because why not? Et je précise, c'est bien Doom qui tourne sur le réveil, c'est pas Doom qui tourne sur l'écran du réveil. Parce que ça c'est l'arnaque souvent quand on te dit hey, ils ont réussi à faire tourner Doom là-dessus. En fait des fois c'est juste l'affichage qui est déporté sur l'appareil. Le code lui-même tourne sur un PC à côté et en fait voilà. Donc ce qui est déjà un bel exploit hein, dans certains cas. Mais je sais pas si vous vous rappelez Doom qui tourne sur le test de grossesse, en fait c'était juste l'affichage de Doom. C'était pas véritablement
merde,
le code.
Non, tu viens de tuer une des plus belles légendes urbaines.
Faudra vérifier si c'est pareil avec la croix de pharmacie.
La croix de pharmacie c'est le cas aussi.
Ah, c'est que l'affichage,
c'est pas juste l'affichage, c'est pas le code de Doom lui-même ne tourne pas, parce qu'en fait, il y a de la capacité de calcul là-dedans, mais elle n'est pas forcément, elle est faite pour aller piloter des trucs, pas forcément pour aller faire tourner des choses derrière. La puissance de calcul est réservée au fait de piloter les LED, en fait, pour la croix de pharmacie. C'est pareil pour le test de grossesse, c'est pareil pour plein d'autres trucs. Donc faut toujours se méfier de ça, hein. La question c'est où tourne le moteur? Là voilà, donc là c'est pas juste l'affichage, hein. C'est vraiment Doom en entier qui tourne dans Alarmo. Ce que je trouve d'autant plus fun. Du coup ça a peut-être une utilité. Alors 100 balles pour une version de Doom qui va être un peu chiante à gérer.
Oui voilà, c'est ça. Alors, sûr. Tu pourrais sûrement y jouer sur Engage.
Attends. Est-ce que tu peux bidouiller le machin pour qu'il lance Doom au lieu de lancer son alarme? Alors, classique.
Là, il y a peut-être un truc à faire.
Et je suis sûr que t'auras des modes où les gens vont mettre leur musique custom. Hein,
pour te faire réveiller. Bah, sûrement.
J'espère. Franchement, ce serait plus fun.
Pour la faire réveiller par Duke Nukem.
Come on, baby. Je pense que ça peut être fun. Monsieur Antix, qui va nous parler de la Super Switch 2 Ultra 64 Turbo.
It's Monk Wii et You à la fin aussi, t'auras fait toutes les consoles d'un coup, je crois.
Wii's Funky Kong.
Oui, enfin, on va en parler bah, vite fait, comme d'hab, parce qu'il y a toujours rien qui a été annoncé. On n'a toujours pas d'éventuelle date, ou même pour l'annoncement, déjà. Hein. Ils n'ont pas l'air pressés chez Nintendo.
Présentation en mars, non, c'est ça?
Non, pour l'instant, ils ont dit bah niquez-vous, on n'a pas de premier. c'est pour Okawa, dès qu'ils font une annonce, genre il y a une vidéo et compagnie, ils font alors par contre, la Switch 2, niquez-vous et faites pas chier.
Non, mais c'est vrai qu'il est écrit exactement dans le Investor, puisque c'est Méduse qui nous a envoyé ça. Méduse, si tu nous écoutes, on te fait des gros bisous.
Yep, sur les tentacules.
C'est ça, dans le. C'est ça, le Nintendo. Putain, le Investor Relations bah, en fait, Information.
Bah, en fait, c'était les annonces des résultats semestriels. Et donc, après, il y a toujours des questions-réponses aux investisseurs.
Exactement. Et donc, il y a écrit page 43, il y a un investisseur qui demande effectivement et où on en est de la. Alors c'est Switch Sequel qui est dit très exactement. Ce à quoi Tonton Fufu aurait répondu, hein, toujours page 43, va bien baiser tes grands morts.
C'est ça, et après il a précisé que, et là c'est la vraie info qu'on essaie de vous donner depuis 5 minutes, que les jeux disponibles actuellement sur la première Switch, donc la préquelle de la sequelle de la Switch, seront disponibles et jouables via la nouvelle Switch. Donc en fait, ce qu'ils mettent en avant, c'est que, comme c'est le cas sur PS5 et sur Xbox Series X, le catalogue de la précédente console sera compatible avec la nouvelle. On ne sait pas encore sous quel format. Est-ce qu'on aura juste à mettre les cartouches dedans et ça marchera? Est-ce qu'il faudra repasser à la caisse pour une petite upgrade? Est-ce que ce sera dans le cloud? Dans ce cas-là, on verra flou, parce que le cloud de Nintendo, je pense que ce sera flou. Là, on n'en sait pas plus pour que vous.
Est-ce que ce sera façon Super Game Boy? Il faudra un adaptateur de cartouches.
Oh my god.
Ah, oui, ce serait magnifique.
oui, Mecton qui nous a balancé une grosse cartouche de Super Game Boy. Imaginez plugger ça à l'arrière de votre Switch dans le métro.
Et moi, je suis chaud.
Mais du coup, là où c'est cool, c'est que ça veut dire que ben, les jeux auxquels on a accès depuis maintenant bientôt 8 ans.
Mais oui, putain,
ça fera 8 ans en mars. Je pensais pas le dire un jour. Pourront être utilisés sur la console d'après. Et là où c'est cool en termes de préservation de jeux vidéo, c'est qu'on est sur une génération où il y a eu énormément de portages, de remakes d'anciens jeux, plus beaucoup de jeux extrêmement cultes. La Switch a quand même eu l'occasion de voir beaucoup de sorties de titres qu'on pensait pas avoir sur la console, des Nier Automata, des Doom Eternal, et tout, et ça veut dire qu'en fait, ces jeux seront encore jouables sur la prochaine console, donc on aura une certaine pérennité dans les jeux disponibles, donc une certaine forme de conservation. Et peut-être des jeux qui seront disponibles sur les deux consoles en parallèle dans les premières années, comme ça a été souvent le cas auprès de la concurrence.
Oui, parce que de toute façon, 8 ans et 145 millions d'exemplaires vendus.
146 même, je crois.
Ça fait beaucoup de millions.
Bientôt les 150, hein, c'est le record de la DS.
Oui, est-ce que le record de la DS va être battu? C'est une très bonne...
Question, c'est que le record de la PS2 sera battu.
Je m'en occuperai personnellement, Mortal.
Je vous ai entendu, je vous ai compris.
Ah bah, il faudra bien ça pour combler les trous dans tes murs. Hein.
Ah bah ça, bah si on met pas et tout, au lieu des plaques de plâtre, est-ce qu'il faudrait peut-être mettre des Switch?
Des plaques de Switch.
Oui, mais sur le sol, pourquoi du parquet? On pourrait mettre des Switch.
Des Switch OLED, histoire que t'as un bel écran.
C'est un peu comme les cartouches de Mario Duck Hunt, avec, que j'en ai tellement, je pourrais me faire une table basse avec. D'ailleurs, un jour, je le ferai.
Putain, t'as pas intérêt à être épileptique quand tu rentres dans ta chambre.
Surtout avec l'écran tactile, ça va être compliqué. Faut pas marcher pieds nus dessus.
Et tu marches, et du coup, l'écran s'allume, et ça fait des espèces de vagues.
J'espère de tout cœur, mis à part, que la Super Switch va utiliser les mêmes cartouches que la Switch, juste plus grosse, quoi.
Parce que ça fera peut-être comme la DS et la 3DS, t'auras juste un détrompeur.
Oui, mais du coup, ce qui fait que ça marchera pas sur les nouvelles cartouches, ne marcheront pas sur l'ancienne console.
C'est ça.
Après, connaissant Nintendo, à tous les coups, les sauvegardes ne seront pas importables d'une console à l'autre.
Ah bah si, il faudra la cloud avec abonnement Switch Online, bourgeois.
Si t'as le Switch Online bourgeois édition, si, ça marchera.
Voilà. Si t'as la plaie, par contre, tu vas te faire foutre.
Bon. Non, mais t'auras peut-être le transfert d'une machine à l'autre, parce que je rappelle que le transfert, lui, il a toujours été gratuit, ça fait quand même partie des trucs de base, c'est-à-dire que quand t'achètes une nouvelle Switch, tu peux transférer toutes tes sauvegardes dessus, exactement comme de la Wii à la Wii U, t'avais le truc de transfert qui marchait très bien, d'ailleurs. C'est très rigolo, avec des petits Pikmin.
Oui, c'est très rigolo, ça.
Sur DS aussi, c'est des petits Pikmin, c'est trop mignon.
Voilà, donc moi, je compte sur le fait que le transfert va se faire avec des petits Pikmin.
Bah oui.
Enfin, peut-être.
Non mais ça me paraît évident, on sait tous que dans les circuits imprimés de Switch, c'est des petits Pikmin qui font passer l'énergie, tout ça.
Évidemment, c'est Pikmin jaune.
Bah oui. On peut dire que la Switch finalement fonctionne avec de l'énergie renouvelable et verte.
Tout à fait. c'est non. Hein. Mecton, il y avait un dernier petit truc sur une version mobile d'Animal Crossing, j'ai rien compris, donc je te laisse,
oui,
je te laisse
alors...
en parler parce que j'ai rien invité.
Ça fait 7 ans déjà qu'il existe une version téléphone portable d'Animal Crossing. Alors c'est un gacha à la con avec des petites quêtes journaux patin coufingre, blindé d'achats intégrés plutôt optionnels, et fin novembre du coup cette version mobile s'arrête. Mais là, vous vous rappelez la version Dr Mario qui a complètement disparu? Là, ce coup-ci, en fait, on va avoir possibilité d'acheter une application, alors à 10 balles pendant un temps et 20 balles plus tard, où c'est exactement le même jeu, air guillemets, mais offline et sans achat intégré.
D'accord.
Ce qui fait que le seul jeu free-to-play de Nintendo avec achat intégré qui reste, c'est Fire Emblem Heroes.
C'est le Fire Emblem, mais voilà, typiquement, je me suis dit, le jour où le Fire Emblem s'arrête, t'as une chance sur deux qu'ils en fassent une version offline, quoi.
Moi, je l'aurais cool. mauvaise si j'avais acheté pendant 7 ans sur cette appli et que je me rendais compte que ça coûtait que 10 balles d'avoir la version complète.
Avec tous les personnages.
Oui, enfin bon, on peut pas tout faire non plus. Eh bien, ça va être l'heure de marquer une première pause musicale, en fait, avant de parler de Super Metroid. Je vous propose donc d'écouter, sur une suggestion de Monsieur Mecton, le prologue a cappella par Smooth McGroove.
Il y a la lui qui chante.
Sur une composition originale de Minako Amano et de Kenji Yamamoto. Il s'agit donc du tout début de Super Metroid, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes. A tout de suite.
The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace.
Et nous voilà de retour. Avec une transition qui pue. C'est heureusement qu'on a...
La transition canette.
La transition canette. La fameuse El Famoso transition canette. Bref, Super Metroid. L'idée de cette émission, c'est de fêter dignement son anniversaire. Et surtout de se dire, qu'est-ce qui fait que 30 ans plus tard, c'est toujours... une référence pour tout un tas de jeux, que ce soit Hollow Knight, que ce soit Dark Souls, que ce soit plein d'autres trucs. Qu'est-ce qui en fait, aujourd'hui, encore une référence ? 30 ans après, pourquoi le jeu est aussi ouf ?
J'ai une suggestion simple, c'est comme Mario 64, c'est un bon jeu. Et voilà.
Voilà.
Ta gueule, Tetris.
Bref, on va commencer simplement par un petit peu la genèse de Super Metroid. On rappelle que Metroid est sorti au Japon sur Famicom Disk System, donc le système de cartouches chelou de Nintendo pour le Famicom Disk System, qui était donc l'extension de la Famicom, et ça fait partie des jeux un petit peu fondateurs chez Nintendo. Il y a Mario, il y a Zelda, et il y a Metroid, malgré son succès un peu moindre, notamment au Japon.
C'est un jeu qui a plus marché aux États-Unis.
Tout à fait, mais le succès critique était quand même là au Japon, et effectivement, ça a quand même été un des piliers de chez Nintendo.
Et c'était un jeu qui n'était pas fait par Miyamoto, hein, pour le coup, parce que c'est Yoshio Sakamoto et l'équipe de R&D One. Donc Miyamoto, c'était 3 ou 4, lui. Mais...
Tout à fait. Et on trouve dans Metroid sur NES, donc déjà un embryon de ce que sera Super Metroid derrière. On a une carte hyper labyrinthique, et en plus, il n'y a pas de carte intégrée dans le jeu, on y reviendra.
Des environnements qui sont assez proches les uns des autres aussi, ce qui n'aide pas à l'orientation.
Ah ouais, sur le premier, c'est un peu l'enfer. Hein.
Sur le premier, c'est très compliqué. On en a déjà parlé dans cette émission, mais si vous voulez refaire le premier, faites Zero Mission, en fait. Bien plus accessible. C'est exactement le même jeu, mais bien plus accessible. Parce que
exactement le même jeu, j'irai pas jusque-là.
Ah, y a du supplément.
Ça raconte la même chose, mais ils ont quand même pris les leçons de Super Metroid pour l'appliquer au premier Metroid. Donc c'est vraiment deux jeux un peu différents, finalement.
En tout cas, c'est un excellent remake. Quoi qu'il arrive, ça vaut le coup. Donc vous avez des cartes labyrinthiques, vous avez des secrets, parfois des trucs vraiment très abstraits, et j'ai même limite abscons par moment. On a vraiment, dans le premier Metroid, on ne peut pas finir le jeu si on ne découvre pas certaines tuiles secrètes qui, à moins de bomber la moitié de la carte, vous les trouverez pas. Donc ça, c'est quand même un petit peu compliqué. On a tout le système d'armes et d'amélioration d'armure qui servent finalement de clés, c'est-à-dire qu'il y a des portes qu'on ne peut ouvrir qu'avec des missiles, il y a des portes qu'on ne peut ouvrir qu'avec le rayon de glace, etc., etc. Donc voilà, l'idée c'est se balader en 2D dans ce grand labyrinthe, aussi bien horizontal que vertical, explorer les entrailles d'une planète qui s'appelle Zebes, dans lequel Il y a des pirates de l'espace, puisque vous êtes une chasseuse de primes de la Fédération Galactique. Alors tout ça est... Bon, c'est vraiment juste un prétexte pour te coller dans un labyrinthe souterrain et pour expliquer pourquoi le fond est noir. Bah oui, on est dans l'espace. T'inquiète. Et on y retrouve quelques ennemis emblématiques de la série. On pense notamment à Kraid, on pense à Ridley, on pense à voilà, tous ces ennemis qui, pour la NES, étaient absolument ridicules. On y reviendra aussi. Parce qu'il y a tout un tas de clins d'œil dans Super Metroid.
C'est oui. des tout petits sprites à la con.
C'est tout petits sprites à la con dans le premier. Mais en fait, c'est des gros sprites pour la NES, mais c'est quand même des. Ouais, c'est quand même des. En fait, c'est tout petit par rapport à ce qui se fera après.
Et on parlera de ça, les sprites des boss.
Ouais, il y a des trucs de ouf hein, dans Super Metroid. Mais bref, voilà, on retrouve un petit peu, encore une fois, une espèce d'embryon de ce qui était fait. L'idée étant toujours la même, c'est finalement, vous êtes seul face à un environnement très hostile dans lequel il va falloir faire du backtracking. Il va falloir aller chercher des armes et des upgrades pour aller explorer de plus en plus profondément et s'enfoncer de plus en plus profondément dans la planète Zebes jusqu'à battre le boss ultime, Mother Brain, qui est donc la chef de les pirates de l'espace. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une espèce de mécanique... Je fais un peu une obsession sur les dungeon crawlers en ce moment, mais parce que je me rends compte à quel point ça a influencé plein de trucs. On retrouve une espèce de logique de dungeon crawler finalement où on descend de plus en plus bas, sauf que là, de temps en temps, on remonte pour aller chercher des trucs. En gros, c'est à peu près ça la nouveauté. Bref, s'en est suivi 3 ans, 4 ans plus tard, je crois, pour la sortie
c'est
de.
C'est 91,
la...
non
oui, 4... ouais, j'aurais dit 90 ou 91. Metroid 2 Return of Samus, qui.
Sur Game Boy.
Sur Game Boy, qui reprend donc à peu près les mêmes bases finalement que la version NES, avec une carte légèrement plus grande, avec des capacités légèrement différentes.
Il fait peut-être un peu plus boss rush le 2.
Exactement, ouais. Pour une raison simple, c'est que finalement, c'est le même principe. Hein, c'est un gros labyrinthe sur la planète SR388, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement.
Et dans laquelle il faut éliminer tous les métroïdes restants. Et donc, le truc très rigolo, c'est qu'on a un compteur au début, on te dit, bah voilà, il y a 41 métroïdes à éliminer.
Et c'est Aliens.
C'est un peu Aliens. Bah,
c'est le Alien 2 de Metroid.
En vrai, c'est ça, quoi. C'est finalement, on te dit, bah, t'es sur une planète, il y a tant d'aliens, faut les éliminer.
Bon, bah, de toute façon, Metroid et Aliens, ça reste très lié, hein. Ils sont jamais cachés de l'influence de la série cinématographique sur la série de jeux vidéo. Hein.
Et on en reparlera, ça aussi, vous inquiétez pas. Voilà, ce qui nous amène à... Est-ce que tu veux faire ta petite présentation maintenant, Tix, ou est-ce que tu veux d'abord qu'on parle du crunch total et brutal ?
On peut parler un peu du développement.
Je pense que ça vaut le coup.
Donc, j'ai un petit peu relu le bouquin L'histoire de Metroid de Pixel Love, qui pour le coup est une bonne source d'information en France sur quand même des développements de jeux où finalement on sait jamais grand-chose parce que Nintendo ça reste la culture du secret. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que Yoshio Sakamoto qui reste actuellement un petit peu le producteur de la série, c'est un peu le Aonuma de Metroid, avait dit qu'il avait déjà des idées pour Super Metroid, mais que la fin de Metroid 2, sur laquelle il n'a pas bossé, lui avait donné des idées, et notamment le fait que Samus secourt le dernier Metroid, c'est ça qui l'a un peu motivé à se lancer dans Super Metroid. Et du coup, Super Metroid, c'est un jeu qui sortira sur Super Nintendo, qui a quand même, je crois, nécessité quasiment 2 à 3 ans de développement. Donc vraiment un jeu qui a été extrêmement long, qui a nécessité le soutien de Intelligent Systems pour la programmation, parce que l'équipe de Super Metroid n'était pas forcément des grosses habitudes de la Super Nintendo à l'époque. Et surtout, comme on a dit, on sait que c'est un des pires crunchs de l'histoire de Nintendo, alors peut-être qu'il y en a d'autres. Majora's Mask est probablement un candidat assez fort pour celui-là. Mais en gros, ce que racontait Sakamoto, c'est que les 6 derniers mois, ils passaient leur vie au bureau, ils dormaient sur place, dans un 13 mètres carrés qui leur servait de bureau, et qu'il y a des fois, il y a les camarades des autres équipes de développement de Nintendo qui débarquaient dans leur pièce et qui font « putain, ça sent le zoo par ici ». Vraiment...
Bonne ambiance, quoi.
Ouais, les mecs se lavaient pas et tout, ça devait être marrant. Bonne ambiance.
Chaise percée ou pas?
Non, putain.
Vraiment, ils se relayaient aussi dans une salle de repos pour bosser tout le temps sur le jeu. Enfin,
c'est putain, l'enfer.
Un truc d'enfer infernal.
Ça ressemble bien à la définition de l'enfer.
Et en plus, évidemment, ils étaient à la bourre, parce qu'apparemment, le producteur, qui n'était pas Sakamoto à l'époque, qui était Kano, je crois, s'est fait engueuler par Gunpei Yokoi, encore chez Nintendo. Parce qu'ils étaient grave à la bourre. On parle quand même d'un jeu qui sort en 94. Donc 94, hein, pour vous donner une idée, la Super Nintendo, elle a déjà 4 ans. Ils sont déjà en train de bosser sur la 64. C'était un peu, ouais, c'était un peu chaud du cul, quoi. Fallait finir vite, d'où aussi les 6 mois de crunch. Pour finalement sortir le jeu en mars 94 au Japon. Je crois un ou deux mois après aux États-Unis et à l'été 94 en France.
Ouais, comme on disait tout à l'heure, on est un tout petit peu à la bourre, mais en fait le jeu a été peu traduit.
Ah, en fait, le jeu de base est en anglais.
C'est ça, la version. On a des sous-titres incrustés, nous, c'est ça.
C'est ça, donc en fait, on pourra en parler après, mais la version française, c'est le sous-titrage des textes de l'introduction. Genre un sous-titrage très succinct. Hein. Pour l'avoir relu, c'est genre. Ça fait 2 lignes de sous-titres, mais là, il y a 5 lignes de texte. Ah oui, il manque la moitié des infos, effectivement.
Oui, bon, après, c'est pas le plus. Enfin, on y reviendra, mais c'est vrai que. La narration de Super Metroid, je la trouve assez impressionnante, moi, en jeu. C'est vrai que la cinématique d'intro, c'est la seule où il y a grosso merdo du texte. C'est quand même. Si, peut-être la cinématique de fin aussi. Mais bon, voilà, c'est pas le truc le plus intéressant du monde, on va se dire.
T'as quelques phrases qui sont lourdes de sens, mais voilà, c'est pas très long et on t'a vite fait de passer, quoi.
Bah, le truc qui te met sur le cul dès le début, c'est l'espèce de voix de synthèse.
Oui.
Ah oui, ça. Alors ça, qui n'existait, pour ainsi dire, pas dans le jeu vidéo, et du coup, c'était un peu impressionnant.
Il y a plein d'autres trucs impressionnants, mais on y reviendra.
Bah, je vais vous lancer la petite présentation.
Alors, faisons la petite présentation, justement, puisqu'on en est au tout début. Allons-y. Faisons la petite présentation.
The last Metroid is in captivity, the galaxy is at peace. Ce sont sur ces mots ressortis tant bien que mal par le processeur sonore de la Super Nintendo que débute Super Metroid, jeu mythique de l'équipe Recherche et Développement Monde de Nintendo, sorti sur 16 bits en 94. Jeu ambitieux à plus d'un titre, souvent imité, mais jamais égalé, ni même remaké, Super Metroid est un titre majeur du jeu vidéo dont on peut voir encore l'influence de nos jours, que ce soit sur sa propre série, la scène du speedrun, et même tout un pan du jeu indépendant moderne. Son histoire est très simple. Alors qu'elle chill dans l'espace, Samus reçoit un message de détresse de la station Ceres, lieu de villégiature du dernier Metroid qu'elle a secouru dans le jeu précédent. Après une visite de la station dans une des introductions les plus mémorables du médium, c'est sur Zebes que Samus poursuit sa mission, planète qu'elle avait déjà explorée en 86 dans le premier Metroid. Mais cette fois, R&D1 a vu les choses en grand. Des zones plus grandes et plus variées, des boss gigantesques et un arsenal plus conséquent, le coup dans une cartouche de grand format de 24 mégabits, soit l'une des plus grosses de la console. On peut ainsi dire que c'est finalement une version super de Metroid. Il fallait bien tout ça pour faire vivre aux joueurs la version la plus ambitieuse. Il fallait bien tout ça pour faire vivre aux joueurs la mission la plus ambitieuse de Samus, recapturer le dernier Metroid et sauver la paix galactique.
Eh bah putain, fallait bien ça. Hein.
Ah bah là, je t'avoue que je voulais me faire plaisir sur celui-là parce que ça reste un très très bon jeu.
Voilà. Je rappelle aussi que 24 mégabits, parce que c'est très important, ça fait 3 mégaoctets sur l'équivalent d'un gros MP3.
Oh putain, un fichier Word vide aujourd'hui.
C'est ça.
Ça vient du tout hein, pour nous. Hein.
C'est ça, c'est quand même assez ouf. Alors que 24 mégabits, c'était même un argument de vente, je crois, aux États-Unis. C'était la plus grosse cartouche
Super Nintendo quand ouais. Il est sorti. Il aura été dépassé quelques mois plus tard par Star Ocean, je crois, qui fera 32 mégabits.
Avec ouais, Star Ocean, bah, spécial. Pour le coup, Star Ocean, ça fait partie des jeux où il y avait énormément de boîtes digits. Hein.
Bah, c'est-à-dire que quand t'as de la place, tu peux te faire plaisir. Hein, c'est... Ce qui arrivera sur PlayStation et Saturn un peu après.
Ça a l'air ridicule aujourd'hui, mais c'était 24 mégabits de plaisir.
Je refuse de cautionner.
Ça me rappelle les cartouches Neo Geo où ils te faisaient 330 mégabits, histoire de dire, ouais, c'est un truc de ouf, quoi. Attends, on est là, genre, oui, bon, c'est rigolo, mais c'est même pas un pixel de mon JPEG, quoi. Un
petit peu plus, quand même.
Ouais, peut-être 4-5, allez.
Voilà, bref, donc, effectivement... Metroid démarre un petit peu sur cette intro et puis oui, on revisite la planète Zebes, c'est pour ça que je vous ai dit on va y revenir. Alors, le principe là reste le même, on a finalement une énorme carte labyrinthique mais hyper connectée. C'est-à-dire qu'en fait, depuis les différentes zones du jeu que vous connaissez tous, hein, Brinstar, Norfair, Maridia, Crateria. Alors, je crois que Crateria c'est la surface, si j'ai
ouais, c'est ça.
Et toutes ces zones sont hyper connectées, c'est-à-dire que finalement, depuis Brinstar, on a des trucs qui permettent d'aller à Norfair, qui est la zone chaude.
Oui.
Qui permettent d'aller à Maridia, de Norfair, on peut aller à Maridia, de Maridia à Crateria, enfin bref, c'est les... Je crois qu'il y a 5 zones, si je dis pas de bêtises, 4 zones.
T'as 4 Crateria, t'as Brinstar qui est divisé en 3-4, t'as Maridia, t'as le vaisseau écrasé, là, une zone un petit peu bizarre.
Wrecked Ship.
Ouais. Tu as Norfair et tu as Tourion.
Ah, c'est Tourion.
Qui est la zone finale très linéaire pour le coup.
Ouais, qui est la seule qui est vraiment. Elle a l'air d'être beaucoup plus déconnectée que les autres.
En même temps, tu accèdes que à la fin par un seul ascenseur qui est derrière un verrou, quoi. Un verrou vénère.
Un verrou un peu vénère. Qu'on trouve très vite d'ailleurs le verrou au passage. C'est vrai que ça fait partie des. On reviendra sur la narration, mais c'est vrai que ça fait partie des trucs impressionnants. Parmi les premières pièces qu'on peut explorer, donc on commence par Crateria, et puis forcément le chemin au départ est très 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 guidé. On t'emmène vers le premier item que tu dois récupérer.
Guider mon cul, moi dès le début je suis parti du mauvais côté.
Oui, mais quand tu pars du mauvais côté, t'es coincé.
T'es vite bloqué. Ouais, oui.
T'es coincé vite, quoi. Tu fais pas le tour de la carte si tu prends un mur au bout de deux salles.
C'est ça. Yes. Et on récupère la première upgrade dans une reconstitution du Brinstar de l'époque, exactement. On va dire.
Mais il n'y a pas que ça d'ailleurs, parce que tu te retrouves exactement devant l'écran de Metroid 1 où, en fait, quand tu pars à droite, tu peux pas y aller, donc faut partir à gauche. Tu récupères la boule et. C'est vraiment le principe du jeu, t'es expliqué dans Metroid dès le départ. Quand on sort de Metroid, tu vas à droite, t'es coincé. Tu ne peux pas te baisser, tu ne peux pas te mettre en boule morph, tu n'as pas encore récupéré ce pouvoir, donc tu ne peux pas avancer. Donc tu vas à gauche, en toute logique, quand t'as bloqué la droite, tu vas à gauche. À gauche, tu ne peux pas y aller directement, il faut que tu sautes par-dessus pour récupérer la boule morphing, et une fois que t'as récupéré la boule morphing, tu peux te mettre en boule morphing, donc tu peux tester l'item qu'on vient de te donner
et dans un environnement pour pouvoir safe.
Exactement. Oui, parce que tu peux plus sauter vu que le mur devient trop.
Exactement, et donc tu vas te baisser, passer sous le mur en boule morphing, et donc tu as compris. Et ça fait partie vraiment des gros trucs de Metroid, c'est le tuto par l'environnement. Tu récupères une kappa, elle te permet soit effectivement de revenir en arrière, soit on te permet de l'utiliser tout de suite dans un environnement safe, soit on te fait comprendre le plus vite possible à quoi ça peut servir.
Oui, généralement, si tu veux retourner dans la... Tu vas être bloqué. C'est comme ça dans tous les Metroid.
C'est vraiment Metroid in a nutshell. C'est vraiment, tu chopes l'upgrade, tu testes l'upgrade tout de suite après, et tu sais comment ça marche. Et puis tu peux y aller.
Ça, c'est le même genre de design que dans les Zelda un peu plus modernes, où justement, une fois que t'as ton nouvel objet, tu vas l'utiliser 3-4 salles de suite pour bien comprendre comment il marche.
C'est ça. Et puis même des fois, ça marche aussi pour les ennemis, c'est-à-dire que t'as un ennemi un peu galère dans la zone, tu récupères le rayon de glace, et tu te rends compte que l'ennemi est beaucoup moins galère une fois que t'as le rayon de glace. Wink wink, c'est effectivement comme ça que ça se passe pour le rayon de glace.
Ce merveilleux système introduit aussi le backtracking.
Tout à fait.
Et oui, j'ai lu le conducteur.
Vous êtes en train de lire le conducteur, c'est bien. Je vais juste revenir sur un tout petit point de carte, parce qu'on nous le dit dans le chat, et effectivement c'est vrai. Donc on commence par une reconstitution, effectivement, du tout début de Metroid, pour bien te faire comprendre qu'on est de nouveau à Zebes. Et pareil, dans les toutes premières minutes, donc tu croises une salle dans laquelle on te montre très clairement les quatre boss du jeu. Donc on te dit, en gros, cette porte-là ne s'ouvrira que quand les quatre boss seront battus, ça on te le fait très vite comprendre.
Ça, ils te le disent pas explicitement, mais globalement, quand tu vas rencontrer le premier des quatre, qui est normalement Cred, tu vas comprendre qu'il y a un lien entre la statue et le mec que tu viens de buter, qui ressemble quand même beaucoup au mec de la statue.
Ouais. Et puis on te fait aller vers ce verrou-là en passant par la salle, les trucs finaux de Metroid. C'est t'as une espèce de reconstitution la zone de Mother Brain.
Tu as la zone de Mother Brain, hein, c'est exactement ça. Hein. T'as un long tunnel.
Tu passes sur son ancien.
Qui est tout en ruine et tout.
Oui, puisque tu lui as crevé le cul en 86.
Et du coup, tu retrouves son bocal complètement pété.
C'est ça. Mais c'est vraiment... de ce point de vue-là, le jeu est assez impressionnant, parce que, encore une fois, c'est la même planète, tu y as déjà été, juste, tu vas en explorer une version peut-être très légèrement modifiée, peut-être un peu plus en profondeur, je sais pas s'il y a des zones supplémentaires, je ne crois pas.
Maridia et Crateria n'étaient pas présentes.
Le Wrecked Ship non plus, il me semble.
Le Wrecked Ship qui a été officiellement le vaisseau qu'on expose dans le remake de Metroid 1, donc dans Zero Mission.
Oh, oui, tout est lié.
Tout est lié.
Lié depuis le début. Mais ce qui est super intéressant avec là ce qu'on vient de raconter, c'est que toute cette intro qui pose à la fois l'ambiance et un petit peu les systèmes de jeu et la progression, c'est vraiment invisible en fait. Si on te l'a pas pointé, tu te rends pas compte en fait que t'as été pris par la main de bout en bout. Ça faut se poser, l'analyser, je pense que quand tu joues au jeu la première fois tu t'en rends pas compte. Et c'est vraiment extrêmement bien fait, déjà il n'y a pas de dialogue. Le seul texte que t'as c'est « Oh t'as obtenu cette capacité, appuie sur tel bouton pour t'en servir !» Et après le reste, ben, c'est toi qui comprends un peu l'ambiance, le lieu, où est-ce que tu peux aller. Et il y a vraiment un travail de level design qui est vraiment très très fin pour te faire comprendre que tu peux aller que dans quelques coins, que tu vas pouvoir peut-être trouver des secrets, mais globalement t'as pas énormément de choix, il va falloir que t'ailles là-bas. Mais c'est pas comme dans Zero Mission où fallait aller sur une statue qui te disait explicitement bah, « c'est là la suite, c'est juste la façon dont c'est créé fait que t'es obligé de suivre ce chemin ».
Et je trouve ça très intéressant aussi de te montrer par quoi l'aventure précédente a commencé, par quoi elle a fini. Et ensuite on te dit, bah regarde, avant il y avait Craig Ridley, maintenant il y a deux copains en plus, et tu vas devoir aller tous leur péter la gueule pour pouvoir te frotter à Motherbrain, quoi. Je trouve ça très très fin comme façon de à la fois de te présenter ce que t'as déjà vécu, et en même temps de teaser un petit peu ce qui va venir.
Oui, effectivement. Et, non, on reviendra là-dessus puisqu'on aura, on a un petit truc de. Je vous ai réservé une petite section, on va dire histoire, narration ambiance, environnementale. Hein. Pas forcément histoire. J'aurais vraiment dit narration environnementale. Il y a vraiment des choses très impressionnantes tout au long de Super Metroid qui méritent aussi le coup d'œil, ne serait-ce que pour la culture.
On va backtracker le conducteur.
On a déjà commencé à backtracker le conducteur.
On fait déjà une séquence Drake, alors...
Ça me va bien. Mais
ce qui est aussi le signe que les différents composants de Super Metroid sont extrêmement bien pensés. Et finalement, en parlant de la navigation et de l'environnement, on se met à parler un petit peu de ce que ça raconte. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très très malin en fait en termes de narration qui est fait derrière.
Tout à fait, c'est que tout est parfaitement lié et tout est parfaitement cohérent. Donc on a effectivement ces tutos par l'environnement qui font dire d'ailleurs on a des armes, des pouvoirs, des items qui vont servir aussi de clés. Ça ne sert pas seulement le super missile ou le missile ne sert pas seulement à casser la gueule à des ennemis, ils servent potentiellement de clés pour ouvrir certaines portes par exemple.
Casser des blocs dans les murs.
Oui, voilà, révéler des passages, casser certains types de murs. Est-ce que Metroid Prime fera en disant « Ah, ce mur est en adamantium, peut-être qu'on peut le casser avec des power bombs. » Là, Super Metroid ne te le dit pas, hein, faut que tu te démerdes.
Ouais, mais pour le coup, il est assez malin. On parlait dans Metroid de ces murs où faut bomber l'intégralité de la surface du monde pour essayer de trouver ce bloc à casser. Là, c'est un petit peu plus subtil. C'est montré par des petits éléments, genre t'as une fissure dans le mur... Il y a des blocs qui sont pas exactement pareils.
Petite goutte d'eau. Oui, voilà, des fois, t'as un agencement des petits sprites qui te disent, mais qui te donnent l'impression que hein, c'est un petit peu bizarre par ici, j'aurais peut-être essayé de bomber un peu ce qui se passe. Quoi.
Et puis, ça fait un peu Breath of the Wild, tu sais, le.
Oui,
tu trouves un truc un peu chou, tiens, t'as un truc à faire.
Sauf que là, t'es quoi au bout, c'est les missiles. Hein.
Tiens, le pirate de l'espace n'est pas aligné avec les autres. Tu le mets, tu les tues tous, et hop.
Et après, ils disparaissent tous, c'est pas où.
C'est bizarre, hein.
Voilà, et t'as le Super Metroid qui fait...
Tu m'as trouvé.
Voilà, Hugo nous dit dans le C4 à outrance, c'est dans Stargate, monsieur, c'est pas le...
Ouais, dans le Super Metroid, on a mieux que le C4, ça s'appelle la Power Bomb.
C'est ça.
T'as besoin de savoir si c'est un truc dans une salle, t'en lâches une.
Exactement, puisque c'est le truc qui révèle tout. Et ça,
une
c'est
caisse
bien.
Ou attends.
Non, c'est une power bomb. Est-ce que
finalement c'est des gros prouts de Samus les power bombs? Je vous laisse réfléchir.
On avait dit qu'on n'arriverait pas là. Il y a aussi énormément de secrets. Alors comme on disait, peut-être un peu mieux branlés et un peu moins merdiques que ceux de Metroid où t'avais vraiment des trucs ingérables.
Et en plus c'est un truc au niveau des secrets, c'est que c'est pas juste les missiles, les barres de vie comme on a l'habitude maintenant. Les power-up qui sont parfaitement optionnels. Complètement finir le jeu sans.
Tout à fait.
Notamment les upgrades toutes les upgrades de rayon. À part le Ice Beam, ils sont tous optionnels.
Les upgrades de rayon, c'est-à-dire le Long Beam et les.
Voilà. J'ai pas le Long Beam dans celui-là, mais le Charge Beam en fait partie. Tu peux le louper. C'est très dur de le louper. Le Wave Beam, tu peux complètement passer à côté. Je crois que la première fois que j'ai joué au jeu, je l'avais jamais obtenu. Parce qu'il est dans une salle dans Norfair. Potentiellement, tu l'as oublié quand tu peux y accéder à nouveau. T'es passé devant, mais tu pouvais pas y arriver. Sauf technique de speedrunning. dont on reviendra après, mais tu peux complètement le zapper et ne jamais l'avoir.
Après, t'as des techniques de speedrunning et tu as des trucs qui ont l'air quand même d'avoir été laissés là un petit peu en mode oui.
Je pensais plutôt au truc qui a été technique qui a été laissé là, genre caché, mais ça on pourra en parler un peu après.
Il y a des trucs qui ressemblent plus à des exploits et tu te dis bon, ok, et t'en as des choses, en fait, je pense que sur les playtests, ils s'en sont rendus compte, ils les ont laissés, même si ça cassait un petit peu la chaîne de la progression, on va dire, parce que ça ouvrait un petit peu, quoi, c'était chouette.
Ça ouvre plein de trucs. Donc on a des secrets, on a aussi du backtracking, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que une fois qu'on a récupéré un item, une arme, un machin, elle ne va pas servir que dans une petite partie de la carte. Il va falloir revenir en arrière, ça, typiquement on va aller choper le ice beam, le rayon de glace, dans Norfair, mais en fait le rayon de glace va servir potentiellement dans Brinstar, potentiellement dans Maridia. C'est-à-dire qu'il va falloir revenir en arrière dans des zones qu'on a déjà visitées, mais avec des nouvelles capacités qui vont ouvrir progressivement la carte, par couches successives, par strates successives. C'est ce que l'on appelle le backtracking. Et oui, Jamy.
Et quand c'est bien fait, le backtracking, en fait, vous avez pas l'impression de vous faire chier à reparcourir la même chose. C'est-à-dire que l'upgrade que vous avez eu, normalement, doit avoir une influence sur la façon dont vous allez appréhender ces anciens environnements. Comme par exemple, on pense à la mythique attaque en vrille qui, bon, vous fait, comme dans tous les Metroid 2D, vous fait pulvériser tout l'univers. Mais du coup, vous faites du backtracking, vous réexplorez les environnements, mais pas de la même manière. Du coup, c'est pas chiant.
C'est ça, non seulement c'est pas chiant, mais en plus, en théorie, ça doit aller plus vite parce que finalement, le niveau général des ennemis dans les environnements qu'on a déjà visités, bah soit on est plus costaud parce qu'on a des upgrades d'armure, soit on a de meilleures armes ou les armes qu'on a récupérées précédemment permettent d'arriver à bout plus vite des ennemis. Donc effectivement, en théorie, le backtracking ne doit pas être chiant.
Ah, ce qu'il faut se dire, c'est que l'obtention des pouvoirs des armes dans Metroid, c'est aussi un power trip qui est assez ouf. Alors c'est moins le cas dans les deux premiers. Et à partir de Super Metroid, à la fin, Samus a des capacités à base de sauter à l'infini et en faisant en plus une espèce de bombe de plasma qui fait que tout le monde va mourir à son contact. Le beam, il gèle et il traverse les ennemis au passage, donc t'en as quatre devant toi, tu les embroches. Non, à la fin, il n'y a pas grand-chose qui résiste à Samus. Hein. Ça fait partie aussi un peu, je trouve, du trip Metroid.
Ouais.
C'est au début un peu dans un endroit où tu sais pas trop où t'es, tu sens qu'il faut être prudent parce que t'as pas beaucoup de vie, t'as pas beaucoup d'équipement. Et en fait, plus t'avances dans le jeu, plus tu maîtrises l'environnement et plus en plus ton personnage est fort. Il a vraiment des capacités qui viennent complètement péter. Alors, en plus, il y en a une que j'adore dans cet épisode, c'est le speed booster, celui où quand tu te mets à courir super vite, tu défonces tout sur ton passage, c'est tellement satisfaisant. Non seulement tu vas vite, mais en plus, il n'y a rien qui peut t'arrêter.
Ouais, mais ça, c'est un truc qui sera utilisé du coup à balle dans la série des Prime, parce qu'effectivement, t'as ce truc-là de dès que t'obtiens le rayon grappin, tout est moins chiant à explorer, on va pas se mentir. Et ouais, au bout d'un moment, tu deviens une espèce de force immuable qui peut massacrer tout ce qui arrive sur son chemin ça, en 2-3 coups. Quoi.
Je trouve que le jeu qui le faisait mieux, c'était Zéro Mission, où t'obtiens vraiment les meilleurs upgrades de l'armure après avoir passé le moment où t'es le plus faible de tout le jeu. Et c'est tellement satisfaisant.
Avec le fameux costume varia légendaire ou je ne sais quoi.
C'était juste la gravity suit.
Tu deviens hyper balèze.
Voilà. Finalement, j'aimerais qu'on termine cette petite partie sur ce qui fait la recette Metroid, ce qui est devenu la référence de Super Metroid. On l'a dit, le backtracking, le tuto par l'environnement. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le level design parce que c'est vrai que on en a parlé un peu en filigrane, mais c'est bien de l'expliciter. On a finalement des petits bouts de niveau qui bouclent. On en a parlé, hein. Tu récupères une arme et elle va te servir à sortir de la zone où tu es. C'est-à-dire que tu as une espèce d'effet de cliquet, de porte avec une seule issue. Tu rentres dans un truc, tu ne pourras pas ressortir tant que tu n'auras pas récupéré l'item. Mais tu as aussi ça au niveau plus global, backtracking. Et du coup, ça fait que finalement, la carte de Metroid en entier est comme une espèce de donjon de Zelda. Je sais que la comparaison est un peu foireuse, mais...
Il y avait des R guillemets.
Il y avait des R guillemets. C'était pour bien expliquer qu'effectivement, faut voir l'intégralité de la carte comme une espèce de niveau géant, et c'est comme ça qu'il est imaginé. Il y a des petits morceaux à l'intérieur, évidemment, mais en fait, tout le niveau est une espèce de gigantesque donjon.
C'est vrai que c'est ça, parce que globalement, tu as, on va dire, une navigation à court terme, c'est-à-dire comment tu vas sortir de la salle, comment tu vas sortir de ce bout de niveau, Et effectivement, t'as la navigation à long terme, c'est-à-dire comment tu vas appréhender l'entièreté de la carte, qu'est-ce que tu vas retenir de qu'est-ce qui t'a bloqué là. Donc t'as vu qu'il y avait une porte que tu pouvais pas ouvrir, t'as vu qu'il y avait un machin que tu pouvais détruire, mais t'avais pas l'équipement qu'il fallait. Et effectivement, te souvenir qu'en allant, qu'en ayant récupéré tel missile, tel machin à l'autre bout du niveau, t'as ce truc-là, à cet endroit-là, ah mais je peux le débloquer maintenant, donc faut que j'y retourne et tout ça, en repassant par les nouvelles zones. Non, c'est chouette.
Il y a tout un côté aussi, comment je navigue d'une zone à l'autre, avec parfois justement des nouveaux pouvoirs qui te permettent de les remettre dans un nouveau contexte. Je crois que c'est quand tu obtiens le speed booster dans Norfair. Bah, il y a toute une pièce en fait, plutôt que de retaper tout le chemin que tu avais fait par des grottes de lave, juste avancer tout droit, et t'exploses en mur. Et là, c'est tellement agréable. Et là, tu comprends pourquoi j'adore ce truc.
T'as pas mal de raccourcis comme ça qui se débloquent, ouais.
Ce que je trouve chouette, c'est que t'as un côté... T'as aussi un côté... On en parlait, quand on revisite les environnements, quand on a de nouveaux pouvoirs, normalement, on les envisage différemment, mais ça veut dire que le jeu, on le débloque par strat, mais il y a aussi toute une stratégie du... Enfin, toute une... Comment dire ? Ah, je vais pas avoir le mot. Toute une catégorie de mouvements finalement qui vont changer. C'est-à-dire, à partir du moment où tu disais où t'as le speed booster, tu vas plus visiter tout à fait les salles de la même manière. Quand t'as la screw attack, tu vas plus tout à fait visiter les salles de la même manière. Ta façon de jouer au jeu va changer au fur et à mesure que tu récupères les items aussi. Tu n'auras pas les mêmes possibilités, tu n'auras pas la même puissance et ainsi de suite. Mmh. Ça fait que revisiter Norfair pour la deuxième fois, quand tu reviens dedans, quand tu as eu l'item X, Y et Z, tu ne vas pas du tout voir le niveau de la même manière. Tu vas pas le visiter de la même manière, mais tu ne vas pas non plus le voir de la même manière. Parce que tes capacités ont augmenté. Je trouve que de ce point de vue-là, le jeu est extrêmement impressionnant, même encore aujourd'hui.
Il est très très bien fait. Quand le jeu t'apprend à faire du Shine Spark aussi, il y a beaucoup d'environnements où tu as des salles immenses et tu vas effectivement les appréhender différemment en disant là j'ai une petite rampe où je peux accélérer, je fais mon Shine Spark, je traverse le truc en diagonale, puis effectivement je tombe sur une nouvelle pièce, etc.
Ouais, justement, je voulais parler des petites techniques cachées, parce qu'il y a le côté, tu as les nouveaux pouvoirs, tu apprends le jeu d'une autre façon, mais c'est aussi un jeu qui est pensé pour être fini rapidement, parce qu'en fonction de la vitesse à laquelle tu finis, t'as pas la même fin. C'est vraiment dans l'ADN du jeu, et pour t'aider, ils ont mis des techniques cachées. T'as le fameux Shine Spark.
Caché ennemi, il me semble que t'as une petite bébête qui te l'aimante.
Les bébêtes te la prennent, le Shine Spark.
On va y revenir sur les bébêtes.
Les bébêtes t'apprennent deux choses. Elles t'apprennent le wall jump et t'apprennent le Shine Spark. Le reste, tu te démerdes.
Ils t'apprennent pas genre la capacité à apparaître dans ton inventaire. Ils t'expliquent que tu peux déjà le faire. Le wall jump, tu peux le faire dès le début du jeu.
Le Shine Spark, t'as le truc de l'espèce d'autruche là qui accélère, qui se baisse, et qui ensuite fait un super saut vers le haut, et tu comprends que tu dois faire la même chose, et après tu découvres cette capacité magnifique qui permet d'exploser tout.
Le Shine Spark qui va devenir vraiment un truc central dans le côté complétionniste de Metroid par la suite. Autant ça sert de manière assez occasionnelle pour avancer dans le scénario principal des prochains Metroid, autant quand tu veux faire du complétionniste, et Metroid Dread pose vraiment le concept dans ses retranchements.
Ah oui.
C'est des puzzles de Shine Spark où tu dois conserver ta charge, dasher au bon endroit, pouvoir te récupérer ta course et compagnie, c'est assez ouf.
Je crois aussi c'est le premier jeu où tu peux utiliser Shine Spark en boomerang.
Est-ce que c'est dans celui-là ou c'est sur Game Boy Advance?
Parce que sur Dread, tu peux faire du Shine Spark en boomerang. Alors, ça m'avait vrillé la tête.
Tu pouvais le faire dans Zero Mission, et je pense que tu pouvais le faire dans Fusion aussi.
Putain.
Zero Mission, il y a un des items les plus durs à avoir, faut faire du boomerang.
Oui.
Et du coup, c'est des deux nouvelles techniques, comme on disait, qui permettent d'appréhender l'environnement à nouveau, et d'une autre façon, et de parfois casser un petit peu des séquences. Quand là, je l'ai refait un petit peu là pour l'émission. Et je parlais du wave beam qu'on pouvait complètement oublier. Normalement, il faut le grappin pour y accéder. Et quand tu passes dans la salle du wave beam la première fois, t'as pas le grappin. Moi, je me suis dit, il y a des pics en dessous. Par contre, il y a un mur bien vertical. Vas-y, je le tente. Bon, je me suis pris un game over la première fois, je l'ai retenté après. Et j'ai eu mon wave beam avant même d'avoir le speed booster, donc j'étais genre, ah, c'est cool. j'ai déjà des trucs en plus.
Mais le grappin est quasiment optionnel. Il y a des trucs qui permettent de truander, notamment le Shining Spark permet de truander le seul endroit où il pourrait être indispensable, ce grappin. Donc à partir de là...
Oui, tu peux... Normalement, t'as besoin du grappin pour aller au Wrecked Ship.
En fait,
avec le Shining Spark, tu peux le skip parce que tu vas traverser la salle de manière horizontale à fond la caisse. Si t'as les points de vie, ça draine les points de vie.
Alors, je me permets de faire une petite pause parce qu'on est en train de gentiment Effectivement, séquence vraie que l'émission vers la suite. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, comme tu disais Antix tout à l'heure, c'est là qu'on voit que le jeu est bien foutu, c'est que tous ces éléments sont très imbriqués les uns dans les autres et ça donne une logique à l'ensemble et une espèce de cohérence à l'ensemble qui est quand même assez impressionnante pour un jeu qui a 30 balais. Alors, on le dira jamais assez, mais 30 ans, le jeu est étonnamment moderne. On y reviendra aussi. Je vous propose donc de faire une seconde pause musicale. On va y arriver. On va donc écouter sur les recommandations de Monsieur Fulgence le morceau qui s'appelle Brinstar Plant Overgrowth Area, qui est donc toujours composé par Minako Amano et Kenji Yamamoto. Ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes 40 et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
Merde, j'ai pas vu venir.
Pour cette deuxième partie, on va toujours parler de Super Metroid. On va essayer de cibler un petit peu plus, on va dire, la direction artistique et le côté narration du jeu. Ça va être un peu compliqué, on en a déjà un petit peu parlé, parce qu'en fait, tous ces éléments sont assez liés au gameplay, ce qui... Je m'attendais pas à ça en préparant l'émission, je me suis dit on va peut-être arriver à compartimenter correctement, mais en fait pas tellement. Pas tellement parce que finalement c'est un tout très cohérent, Super Metroid. Mais je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu sur les cinématiques par exemple, parce que c'est vrai que...
La cinématique du coup.
Enfin, la cinématique d'intro, qui est déjà assez impressionnante.
L'écran-titre aussi.
L'écran-titre qui est extrêmement impressionnant.
Mais direct dans l'ambiance. Très sombre.
Hein. Avant même de commencer la partie, le jeu t'en met plein la gueule.
C'est ça, il y a un petit coup de mode 7, hein, vous me croyez pas, mais c'est du mode 7. T'as des zooms, des rotations, mais c'est surtout, t'as un côté très cinématographique, quoi, tu vois. On te montre un laboratoire, on te montre un Metroid qui est en train de... Enfin, qui est...
Flashback en noir et blanc.
Voilà, t'as le flashback de flou, lui, il est juste en train comme ça, t'as des lumières qui clignotent, t'as cette espèce d'atmosphère très très sombre.
Ce qui est assez intéressant, parce qu'on rappelle que c'est un jeu Nintendo de 94, et Nintendo, dans la tête des gens, c'est Zelda et Mario, hein. Donc Metroid, c'est... C'est vraiment à l'opposé de tout ce qui se fait chez Nintendo.
C'est ça, t'as une ambiance très, très adulte finalement, très, très science-fiction, science-fiction d'horreur. On parlait du film Alien tout à l'heure, c'est vrai que personne ne s'est jamais caché chez Nintendo de la parenté, entre guillemets, enfin, du fait que Alien avait été une inspiration pour Metroid.
Mais quand là, t'as un boss qui s'appelle Ridley, comme le réalisateur du premier Alien, bon...
Tu te caches pas
trop. Quand le deuxième jeu, le scénar, c'est quand même plus ou moins celui d'Alien 2.
C'est ça. Ouais. Donc là, pour Super Metroid, les mecs assument jusqu'au bout, quoi. Je veux dire, tu croirais l'intro d'un film d'horreur, hein, finalement. Il y a des gros plans, il y a des lumières qui clignotent, il y a des
t'as espèce cassés, t'as cette espèce de mystère qui plane, parce que t'as les scientifiques morts sur les côtés, mais en même temps, t'as la capsule du Metroid. Tu sais que le Metroid n'est pas responsable de ça, parce qu'il est toujours dans son truc et tout.
Et t'entends le cri du Metroid, qui est un cri assez strident aussi. Hein.
Ouais, qui tu te dis... C'est quand même bizarre de te dire, bah, d'un côté, les Metroid sont hyper dangereux, tout ça, c'est-à-dire, tu le sais si t'as joué au jeu précédent, et en même temps, t'as l'impression qu'il est en détresse, le machin, c'est...
Voilà, y a un côté un petit peu bizarre à tout ça, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a aussi une cinématique de fin qui est pas trop mal non plus, il y a le côté... On n'en a pas encore parlé, tiens, c'est bien, il y a le chronomètre à la fin. On va te mettre un petit coup de stress en mode bon, bah, maintenant faut évacuer la planète.
C'est un classique, ah,
classique, classique. Faut faire sauter.
Gros classique. La première de instance de Samus qui détruit une planète, hein, ce sera pas la dernière.
Ah oui.
Mais il était temps de détruire la planète Zebes, hein. Je pense que c'est vraiment. C'était vraiment une planète de merde, donc fallait la casser. Mais voilà, t'as aussi ça, hein. T'as aussi le côté, finalement, un peu comme dans. Alors, on va revenir à Alien 2, toujours de. Ah non, pas de Ridley Scott d'ailleurs, de James Cameron.
Tout à fait.
Où, effectivement, à la fin, on fait tout sauter, parce que de toute façon, c'est la seule solution pour se débarrasser alors, des aliens d'un côté, mais des pirates de l'espace, de Mother Brain, d'être sûr qu'elle reviendra jamais. Bon, bah voilà, faut tout faire péter, quoi.
C'est ce qui est assez marrant. Le mec qui va écrire le scénario de la suite.
Ah bah ça.
Ouais, ça, ils trouvent des solutions. Hein.
On arrive toujours à ressusciter Mother Brain, hein, c'est pas la question.
Ou alors les métroïdes.
Oui, voilà. On peut toujours trouver la planète d'origine des métroïdes, tu vois. C'est pas impossible.
Ah bah, techniquement, elle a été détruite, elle aussi.
Bah oui, mais bon, dans ça, pauvre dame. Bref, donc il y a effectivement un côté très cinématographique où on te... Enfin voilà, le jeu... Pour 1994, encore une fois, le jeu qui a 30 balais, il y avait quand même assez peu de jeux à part les RPG qui essayaient d'avoir ce côté très cinématographique. C'était quand même pas quelque chose de...
C'est vrai que pour un jeu d'action, c'est beaucoup plus rare. Et là, en plus, donc, on a l'intro, on a aussi cette cinématique au début avec le passage... qui est dit avec une voix, enfin une voix sur Super Nintendo encore une fois. C'est la voix du traducteur de Super Metroid d'ailleurs, pour l'anecdote. Et, qui était de passage à Nintendo, on lui a fait tiens, enregistre un truc en anglais, parce qu'on a envie de faire notre jeu en anglais, c'est plus cool. Ouais, je trouve ça rigolo. Et même toute l'intro du jeu, je pense jusqu'à ce que tu atterrisses sur Zebes, c'est cinématique en fait, hein. Tu peux pas mourir, mais par contre ça te pose une ambiance.
Ça te pose clairement une ambiance. D'ailleurs, à propos d'ambiance, il va falloir qu'on parle un petit peu de narration environnementale. On avait parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il va falloir quand même qu'on y revienne. On attribue souvent la narration environnementale à des jeux comme Half-Life, où il y a beaucoup de scripts qui se déclenchent à certains moments clés du jeu, comme Bioshock, qui raconte beaucoup de choses par son environnement, mais Super Metroid fait déjà ça. Alors, 5 ans avant Half-Life, 10 ans avant Bioshock, tu as des scripts qui se déclenchent régulièrement, c'est-à-dire tu rentres dans une pièce, tout d'un coup, pouf, le truc devient sombre, la porte se referme derrière toi, tel mur s'écroule, enfin tout ça c'est des choses qui arrivent à certains moments de l'aventure. Alors peut-être pas les murs qui s'écroulent.
Une statue de Kozo vient t'agresser. Si, bah oui. Le mur s'écroule à ce moment-là, je crois.
Oui, le mur s'écroule à ce moment-là, non mais c'est vrai, le mur s'écroule à ce moment-là.
Là, le bon exemple c'est vraiment quand tu repasses, comme on a dit, dans la zone, les zones de fin du premier Metroid, qui sont complètement dévastées, qui sont vides au début. Et puis après, une fois que t'as obtenu ce qu'il fallait, tu remontes et là, genre, il y a du monde.
Il y avait du monde.
Avec la musique qui change et tout ça, c'est extraordinaire.
Ouais. Et du coup, t'as du script, entre guillemets. C'est effectivement tout ce qu'on disait, hein, c'est les zones changent, certains événements sont scriptés, sont déclenchés à l'avance. Pas forcément pour te faire peur, finalement, plus pour, contribuer à l'ambiance, contribuer à la narration du jeu, sans une putain de ligne de dialogue. De tout le jeu, et avec quasiment aucune ligne de texte de tout le jeu. On disait tout à l'heure, quand t'as récupéré un item, on dit appuie sur X pour l'utiliser. Voilà, c'est tout. Tout le reste par le jeu, quoi.
Voilà, les seuls moments où on te raconte quelque chose, c'est Samus qui t'explique ce qui s'est passé dans les épisodes précédents.
C'est ça.
Oui, c'est juste ça, mais je crois que même à la fin, il n'y a pas de dialogue, pas de texte, rien.
Ta mission accomplie, et let's go, allez, salut, à la prochaine.
Voilà, t'as fait tel temps.
C'est tout. Ça fait beau aujourd'hui.
JJ, bro.
Et on disait aussi, il y a les tutos via l'environnement. Alors, on a parlé des petits animaux tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a deux zones qui sont d'ailleurs assez proches l'une de l'autre. C'est assez étonnant. Où tu croises un machin, tu te dis que c'est un ennemi, tu tires dessus, ça marche pas. Et en fait, c'est une petite bestiole qui va se mettre à faire du wall jump. Donc, pour te dire, en fait, là, tu peux faire du wall jump, ma gueule. Voilà. Après, on te dit pas du tout comment le faire.
Elles sont assez proches les unes des autres ?
Oui.
En fait, quand tu regardes, c'est les endroits où tu reviens. T'as fait ton premier tour de Zebes, t'as récupéré les bombes de puissance, tu reviens par là parce que c'est là où tu vas revenir fouiller. Et en fait, c'est des trucs que t'accèdes parce que t'as les power bombs ou un autre truc. En fait, c'est assez logique qu'elle soit dans ce coin-là, c'est pour que tu les retrouves. Tu tombes dessus assez facilement, en fait.
Mais ce qui est bien, c'est que finalement, comme on disait, on ne t'explique pas que la course, tu peux juste courir et une fois que t'as couru, tu fais bas pour charger le truc, puis tu sautes pour faire un saut gigantesque, exactement ce qu'on décrivait tout à l'heure. Ça ne t'est expliqué nulle part, ni dans le jeu, ni dans le mode... Enfin, ça n'est pas expliqué explicitement dans le jeu à travers un tutoriel, c'est vraiment une espèce d'autruche à la con qui te le montre.
Et elle te montre même pas les commandes, donc c'est à toi de deviner que tu dois faire bas.
C'est ça.
Et comme c'est relativement explicite,
si tu l'observes correctement, tu vois qu'elle se baisse elle avant se baisse, de sauter. Ouais. Donc tu peux essayer de le deviner, mais c'est vrai que c'est pas du tout...
C'est comme les animaux qui sautent sur les murs, tu vois, qui s'appuient sur le mur en regardant de l'autre côté. Et c'est là où tu peux dire, mais attends, si je mets ma croix de l'autre côté, quand je collais un mur, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vois que Samus, elle fait pareil.
Exactement. Et tu peux ressauter.
Et alors ça, qu'est-ce que c'est fun. Quand tu sais un peu faire, tu peux vraiment t'amuser avec. Moi, j'adore ce truc.
Surtout que...
Ah, il est un peu raide sur celui-là.
Il est un petit peu raide.
Alors moi, je le trouve plus facile que dans les épisodes GBA. Parce que comme Samus est ultra flottante, t'as vraiment le temps de bien te caler.
Ouais.
De sauter sur un même mur. Et en fait, c'est beaucoup plus facile à faire que dans Metroid Zero Mission, où vraiment...
Sur Metroid Fusion, vous oubliez le truandage d'upgrade avec le wall jump. Hein. Il a tellement été nerfé.
Bah, c'est surtout qu'en fait, le wall jump, c'est pas une upgrade. Il n'y a même pas besoin, je crois, d'avoir le...
Non, faire non, dès le début,
tu peux le faire dès le début. Mais du
si,
coup,
tu veux le faire, si tu veux le faire dans Ceres, tu peux.
C'est ça, mais du coup, ça veut dire que la première fois que tu fais la partie, tu croises ces animaux, bon, t'as peut-être... La petite bestiole, elle te montre qu'elle fait des sauts muraux, peut-être que t'as pas trouvé comment faire. Au bout d'un moment, tu essayes, puis tu dis « Ah, ok, c'est comme ça qu'il faut faire, effectivement. Gauche-droite, appuyer sur le bouton, machin, tout ça, t'y arrives. » Tu finis par y arriver. Même moi, ça m'est arrivé, j'ai même pas regardé le tuto. J'ai vraiment, je me suis forcé à me dire « Ok, comment on fait ?» Essayer de comprendre, effectivement, comment ça marchait, donc t'y arrives. Mais en fait, tu te rends compte, si tu relances le jeu, que c'est dispo dès le départ. Hein.
Oui, et c'est pour ça que le jeu a du séquence break et a été pensé pour ça. C'est si tu utilises ces techniques qu'on t'a montrées, tu peux avoir des choses.
Oui, dès le départ. Et si tu fais l'évolution de cette technique, c'est-à-dire faire du wall jump sur un seul mur, là ça commence à être l'orgie, quoi.
Mais là c'est marrant, parce que finalement, c'est une façon d'améliorer la rejouabilité. Hein. On te montre un truc que tu pouvais pas savoir au départ. Et puis bah derrière, si tu le sais, bah, t'essayes, ça marche. Et, wow, peut-être qu'on peut faire des trucs.
Ouais, tu te dis, t'as chopé ce truc-là en avance, fallait le grappin, bah, tu l'as fait wall jump. Bon, t'avais tel machin, ah, bah, j'ai chopé une upgrade, maintenant je peux aller ici alors qu'avant je pouvais pas. Et voilà, enfin, ça donne un potentiel de rejouabilité assez énorme.
Ouais, et puis du coup, si t'es un peu. T'as bien expérimenté, bah, tu peux vraiment essayer de tester sur tous les murs. Bon, est-ce que là je peux faire un truc avec? Oui, non, peut-être. Est-ce que t'es assez satisfaisant d'arriver à avoir des trucs un petit peu en avance? Casser oui, un petit peu la séquence du jeu.
C'est ça, tu vas casser un petit peu le cheminement normal du jeu, tu vas le casser un peu, mais ça va te permettre de casser des trucs plus loin. Enfin voilà, tu peux vraiment t'amuser. Je pense que c'est un jeu qui a une grosse rejouabilité là-dessus. Si tu aimes le challenge, si tu aimes... comment dire j'allais dire le dépassement, c'est pas tout à fait ça le...
L'expérimentation,
et t'as beaucoup de gameplay émergent en réalité dans Super Metroid parce que...
Je pense qu'il y a beaucoup de choses...
Le jeu est assez ouvert.
Il y a beaucoup de choses que des joueurs ont trouvé à force de jouer au jeu, notamment la communauté speedrun, qui est très très active, qui n'était pas pensée par les devs, qu'ils avaient juste mis cette technique en disant bah, « c'est rigolo, ils vont pouvoir s'amuser avec », et en fait les mecs ont réussi à juste surpasser le truc parce que bah, les devs se sont dit « on va le mettre, mais on va pas forcément mettre toutes les restrictions qu'on aurait mis dans un jeu moderne actuel ».
Effectivement, aujourd'hui, il serait, comme on disait, hein, Metroid Fusion est peut-être un peu plus rigide de ce point de vue-là, mais après...
Fusion, de base, est très linéaire aussi. Hein.
Oui. C'est vrai que là, c'est moins linéaire. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que le jeu il est assez dirigiste, finalement, au départ. C'est-à-dire, le chemin de départ, quand tu ne connais pas ces techniques-là, qui permettent d'aller zapper une partie du jeu, quand tu ne les connais pas, tu... Finalement, le jeu te met sur des rails au départ, t'as quand même un chemin prédéterminé, t'as, on va dire, les 4-5 premiers items qui sont à peu près prédéterminés et que t'as intérêt à aller chercher dans le bon ordre. Mais à partir d'un certain moment, le jeu est extrêmement ouvert et te laisse vraiment te démerder. On te lâche la main et on te dit débrouille-toi.
Il n'y a pas de point sur la carte, quoi.
En plus, oui, il n'y a pas de point sur la carte. On se dit pas, ah bah tiens, il se passe un truc dans Magmore, les cavernes, il fait drôlement chaud. Non, non. Tu dis juste, non, bah voilà, écoute, t'as toutes les techniques, t'as tous les objets de base, bah go wild, quoi.
Il y a une carte plaisir, dans le manuel aussi. N'oublions pas que c'est un jeu qui était vendu avec un manuel. Hein,
oui.
Oui, mais quand même, quand tu débutes sur Metroid de base, Metroid 2 et tout ça, la carte qui est dans le jeu, elle est déjà très très bien. Parce que putain, là t'as une carte qui est interactive, semi-interactive, on va dire, qui t'indique où tu es, qui t'indique... Des fois, quand il y a des upgrades, qui t'indiquent à peu près où sont les connexions, tout ça, c'est quand même chouette. Ça, c'est une grosse upgrade de confort sur Super Metroid.
Sauf erreur de ma part, on peut pas naviguer entre les zones
dans
cette
carte.
Et tu peux pas juste la déplacer vite fait ?
tu peux juste la déplacer, mais tu vois, quand t'es dans Norfair, t'es dans Norfair, et en fait, tu peux pas revenir à la carte de Brinsar pour voir où est la prochaine connexion, quoi. Faut que tu te démerdes.
Ouais, d'ailleurs, ils iront même jusqu'à mettre des terminaux de cartes pour te donner une partie de la carte. Et du coup, ça donne des indices aussi sur les zones qui existent et auxquelles tu peux peut-être accéder, si tu cherches un petit peu. Et ça, c'est plutôt chouette.
Ça, c'est plutôt pas mal fou. Autre petite chose, d'ailleurs, on parle de niveau et de zone, on a aussi des ennemis, des boss.
Des gros gros boss.
Des gros gros boss.
Ridley, c'est deux écrans.
Crane, c'est deux écrans.
Crane, pardon. Mais Crane, Ridley est gros aussi. Hein.
Ridley est gros, surtout Ridley vole, machin, revient en mode 7, enfin il est quand même bien.
Quand tu repenses au sprite de Crane et Ridley dans Metroid et que tu vois cette Super Metroid, tu te dis que c'est pas des stéroïdes qu'ils ont pris là. Hein.
C'est surtout que sur Super Metroid, en plus, ils se foutent un peu de sa gueule parce que quand tu vas vers Crane, tu as une espèce de version de mini Crane que t'exploses en 2 secondes. Tu te dis, oh non, mais c'est pas Crane quoi.
C'est zizi pizzi.
Il est dans la même salle en plus hein, que le Crane de Metroid. Quand tu regardes, superpose les deux cartes, je crois que c'est genre un tout petit peu en dessous.
Ça me ressemble beaucoup. Hein.
Et après, tu vas le vrai Crane qui lui est gigantesque, qui fait deux écrans de haut, trois écrans de large.
C'est même encore mieux que ça, parce qu'au début, il apparaît. Déjà, il y a cette tête qui dépasse du sol, qui fait déjà tout l'écran. Il lui met quelques missiles dans la tronche, et c'est là où il décide de dire hey, je vais me foutre debout.
Coucou.
Et là, ça monte et tu fais ah, mais il y avait un truc au-dessus. Ah, il est au-dessus en plus, d'accord. Et là, tu vois qu'effectivement, il est deux écrans de haut.
Le combat prend de la hauteur, on va dire.
C'est exactement ça.
C'est le premier gros boss du jeu, et vraiment, tu sens qu'ils ont dit on va leur remettre plein la vue. Hein.
Ouais, là, on peut se lâcher un peu. Alors, ce n'est pas un sprite, hein, c'est un fond d'écran. Hein.
C'est juste la tête qui est un sprite.
Même pas, il y a juste un morceau de sprite qui est genre la mâchoire du bas ou un truc comme la mâchoire du haut, je crois, mais le reste, c'est juste le fond du. Le fond, c'est pour ça que le fond est noir d'ailleurs.
Mais c'est ce qui est assez sympa d'ailleurs avec cette façon-là de faire un peu de narration avec les boss, parce qu'on aura la même avec le boss de fin, la fin du jeu qui est assez mythique avec son boss en 3 parties, qui te narre toute une fin de scénario de Super Metroid. C'est qu'il y a vraiment aussi cette volonté qu'on aura aussi dans d'autres Metroid hein, d'ailleurs, hein, d'avoir aussi un peu de narration pendant les combats de boss, que ce soit pas juste un monstre à abattre, il y a vraiment des événements qui se passent qui font avancer la trigue.
Alors pendant que Mecton raconte des conneries, c'est compliqué. Je voulais aussi revenir un petit peu, puisqu'on est sur la DA, il y a aussi par rapport au. Alors Metroid 1 avait tendance à faire ça avec des couleurs, c'est-à-dire qu'on avait les zones étaient colorées en rouge, en orange, en marron, en violet et ainsi de suite. Super Metroid va beaucoup plus loin. Alors Metroid 2, les couleurs c'était compliqué.
Hein, il y en a deux.
Voilà. Sur Game Boy, donc il y avait des motifs, mais c'était vraiment très compliqué. Mais c'est vrai que même Metroid 1 le faisait pas très 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 bien.
Ouais, avec les fonds noirs, c'était chiant. Ouais,
c'est un peu relou. Alors que Super Metroid fait ça très très bien. C'est-à-dire, tu as des zones qui sont parfaitement caractérisées. T'as une musique bien spécifique, ce qui n'était pas le cas sur Metroid 1. T'as un bestiaire bien spécifique. Il y a des bestioles que tu ne trouves qu'à certains endroits ou des variantes de bestioles que tu ne trouves qu'à certains endroits. T'as généralement des dominantes de couleurs. Tu as un style, tu as un environnement. Il y a des environnements désertiques, il y a des environnements plus caverneux, des environnements avec des plantes et ainsi de suite. Donc on s'est débrouillé aussi dans Super Metroid pour que l'intégralité de l'environnement, que tu puisses te dire une fois que t'as passé un ascenseur, une porte, un machin, ah ok, je suis dans Maridia. Sur certains. Tu vois, tu peux pas te gourer. Tu t'as franchi une porte, dans ce monde très interconnecté, où on pourrait facilement se perdre, finalement, passer de Brinstar à Norfair, c'est véritablement. Tu sautes complètement d'un environnement à l'autre, le biome n'a plus rien à voir. Tout l'environnement change en même temps. Avec très peu de transition, généralement.
Ouais, le but, c'était d'éviter de faire. Y a que des cavernes à pas courir avec plus ou moins de lave, quoi.
Ça ressemble beaucoup
à ça. C'est ça Metroid, hein, globalement. Hein.
C'est vrai.
Et même si tu regardes dans Zéro Mission, quand tu joues à Zéro Mission, qui du coup met un peu plus de détails dans ses environnements, tu vois quand même que c'est très caverneux. Là où Super Metroid s'autorise à faire une zone avec des plantes parce qu'on est encore proche de la surface, une zone avec que de la flotte.
Une zone avec que de l'acide.
Aussi, ouais.
Histoire de rigoler.
Ça s'appelle l'Amsterdam, ça, non?
Oula.
Et ce qui est sympa aussi, c'est que t'as vraiment une évolution, surtout sur Brinstar. où t'as la partie très végétale, puis ensuite tu vois que y a un côté un peu champignon, spore et tout ça. Et après t'as une partie où la végétation se fait un peu envahir par les espèces d'insectes à la con là. T'as des cocons un peu partout, t'as ces bestioles là, des espèces d'insectes avec leur sale tronche là, qui sont omniprésents et tout ça, et qu'on ne rencontre qu'à cet endroit-là. C'est quand même très très cool. C'est-à-dire que tu sais exactement, même sur Brinstar, qui est quand même une large zone, qui est divisée en plusieurs secteurs.
Qui est la plus grande zone, en fait, hein, qui est effectivement divisée en deux, trois secteurs, mais qui est la zone qui n'a pas, comme tu disais, une seule et unique identité, comme Norfair, c'est la zone de feu, donc finalement, voilà, Maridia, c'est la zone d'eau, et ainsi de suite. Brinstar, c'est, oui, il y a trois gros secteurs, en gros, bah, tu peux te repérer.
Et justement, tu peux les distinguer, t'as vraiment trois gros secteurs, alors que Maridia... Bon, t'as la partie qui a l'air naturelle, et puis t'as une partie un petit peu laboratoire, mais c'est à peu près tout, quoi. Là, t'as vraiment, sur Brinstar, t'as trois identités très distinctes.
Voilà, y a plein de choses assez impressionnantes. Alors, on va adresser l'éléphant dans la pièce, puisque ça fait plaisir à Jean Fulgence. Castlevania Symphony of the Night est-il une fraude ?
Oui.
Merci.
Ce sera mon dernier mot.
merci, procureur.
Oui, finalement, c'est... Oui. Pas très longtemps après, 97, si je dis pas de bêtises, 98, Castlevania Symphony of the Night reprend finalement cette formule Metroid, puisque le grand château de Dracula a exploré avec des zones bien distinctes, hein, la bibliothèque, les catacombes, les égouts plus ou moins, les clochers, et ainsi de suite. Donc on reprend cette idée de très grande carte, avec des petits morceaux interconnectés, avec ces effets de cliquet, tu rentres dans une salle, tu ne peux plus ressortir tant que tu n'as pas récupéré l'item qui va te permettre d'essayer de manière safe ton pouvoir, voilà, tout ce dont on a parlé.
Et encore, c'est moins... le côté backtracking avec un nouvel item, enfin, ouais, un nouveau pouvoir et tout ça, est beaucoup moins présent dans Symphony of the Night. Mais ouais, globalement, pourquoi Castlevania Symphony of the Night est une fraude, et pourquoi il faut enlever le Vania de Metroidvania, globalement, parce qu'en fait, Symphony of the Night ne rajoute que des éléments de RPG à cette formule, et même alourdit le jeu avec ça, avec ses équipements, ses stats, ses niveaux à monter, etc. Il n'est pas aussi pur que Super Metroid.
Ah, préférer la pureté. D'ailleurs, petit truc rigolo, hein, Symphony of the Night, à la base, c'était pas Metroid qui a servi de modèle, c'était Zelda.
Wow.
Les mecs, ils sont vraiment ratés, en plus.
Ah, les mecs, ils se sont loupés, quoi. Ils ont copié le truc.
Après, ils sont méchants, mais ça reste un bon jeu.
Oui, ça reste un bon jeu, mais c'est vrai, je comprends que...
C'est un jeu qui a bien moins bien vieilli, par contre, que Super Metroid, pour le coup, là.
Bah, peut-être, justement, à cause de cette... certaines lourdeurs, c'est-à-dire quand t'appuies sur l'écran de pause, ça met déjà 2-3 secondes à charger, faut changer les items, tu reviens, enfin... Et peut-être le côté... Faudrait peut-être faire une espèce de remake, en fait, ou une version un peu accélérée, peut-être, du jeu, je ne sais pas
après,
si ça mériterait.
Symphony of the Night, t'as quand même eu beaucoup de Castlevania qui sont quand même très inspirés. Rien, tu vois aussi ce que ça donne dans des consoles un peu plus modernes, entre guillemets, parce qu'on parle de jeux qui sont sortis sur Game Boy Advance et DS, maintenant. Plus de 10 ans, hein, pour la plupart, voire 20 ans. Mais ouais, c'est vrai que je pense qu'en plus, là où Metroid a... Finalement, Super Metroid a jamais vraiment été dépassé, Symphony of the Night, bah t'as des jeux qui sont quand même assez cool aussi. Ça montre un peu ce que ça donne à un jeu qui a moins de lourdeur au niveau de son gestion d'inventaire.
C'est vrai que t'as un côté plus épuré qui fait peut-être que ça a mieux vieilli, finalement. Même si...
C'est peut-être ça le problème, effectivement.
Même si Super Metroid a quand même deux ou trois petits défauts.
Ouais, il est pas parfait.
Les contrôles.
Ah,
les contrôles sont vraiment pas bons.
Ah, le bouton de course.
Alors.
Ah, le bouton de course qui sert à peine.
Le bouton de course qui sert à peine. Alors, je précise, si vous y jouez. Alors, il est sur le Nintendo Switch Online Super Nintendo qui, je crois, est accessible dès l'abonnement Pleb.
Oui, c'est l'abonnement bourgeois moins.
Bourgeois moins.
Il a changé de nom tout le temps.
Bref, donc avec l'abonnement de base qui permet de jouer en ligne, vous avez l'application Super Nintendo sur laquelle il y a Super Metroid. Donc je vous recommande, si vous en avez l'occasion, parce que bon, sortir une Super Nintendo c'est faisable, hein, mais ça coûte un petit peu cher, surtout que Super Metroid est un jeu un petit peu recherché, notamment en version PAL, parce qu'il s'est pas tant vendu que ça en France. Donc c'est un peu chiant à récupérer. Bon, après il reste les émulateurs, bien évidemment, mais voilà, si vous voulez jouer de manière un peu entre guillemets légale et puis pas si désagréable que ça, parce qu'avec une manette de Switch ça marche assez bien,
Et puis en plus, il y a des sèche-têtes et tout. Franchement, c'est assez confortable. Bref, en termes de contrôle, c'est pas foufou, on va dire.
Donc le schéma de contrôle, c'est quand on est habitué aux épisodes Game Boy Advance sur Super Metroid, il est un peu genre... Moi, j'ai deux boutons pour tirer en diagonale.
Ouais, c'est...
Alors, le bouton R sert à tirer en diagonale vers le haut, le bouton L sert à tirer en diagonale vers le bas, ce qui est pas ouf, déjà. Le bouton B, c'est la course. C'est-à-dire, par défaut, Samus marche un petit peu vite, mais en gros, elle ne court pas. C'est-à-dire, pour courir, il faut maintenir un
coup. Oui, elle accélère pas. Ce qui sera supprimé dans Metroid Fusion, où oui. Samus court de base, et dès qu'elle a le speed booster, je veux dire, tu cours un peu plus longtemps, et puis c'est bon, t'y vas, quoi.
Oui, de manière générale, Samus, c'est beaucoup plus... un peu plus pâteau et lunaire que sur les itérations Game Boy Advance ou même Metroid Dread. Par contre, là, c'est une pile électrique.
Là, par contre, ce qui m'emmerde le plus, c'est que finalement, il faut appuyer sur le bouton Select. Donc, moins quand vous êtes sur
Switch.
C'est le pire truc.
C'est-à-dire pour changer, et en plus, c'est un switch un peu bizarre parce que finalement, vous appuyez sur moins, vous sélectionnez le missile. Puis vous appuyez sur moins, vous sélectionnez le super missile. Puis vous appuyez sur moins, vous sélectionnez la bombe de puissance. Et en fait, faut appuyer sur. Alors, vous pouvez réappuyer sur moins pour désélectionner.
Donc, à la fin, t'as 5 trucs là-dedans.
C'est ça. Ah oui, non, mais c'est l'enfer. Et en plus, donc, si tu fais genre. Donc, faut que tu veux le super missile pour ouvrir juste une porte, hein, parce que les portes vertes, ça s'ouvre comme ça. Donc, vous faire moins. Faut appuyer sur le bouton de tir, donc X. Pareil, j'aurais préféré que ce soit Y, mais bon, bref.
Ah, ça, tu peux configurer.
Si tu peux, alors, le bon point, c'est justement ça. On peut tout configurer, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Donc, tu peux mettre Y pour tirer, B pour sauter, ce qui est quand même déjà un peu moins merdique. Mais une fois que t'as fait ça, faut appuyer sur Y pour faire le Weapon Cancel, qui te permet de désélectionner toutes les armes.
Ouais.
Oui, bah, du coup, quand t'es en combat de boss, c'est un peu compliqué d'être flexible. Ouais.
C'est ça. Ils s'en seraient mieux sortis en foutant une espèce de rotation sur les gâchettes, genre... T'appuies sur L, ça te met direct la dernière arme de ton inventaire, et t'appuies sur R, ça te met la première, donc le missile. Tu vois.
Sur Game Boy Advance, on fait un truc assez malin, c'est tu maintiens L, je crois, de mémoire, pour passer au missile.
Oui.
Quand t'es en bombe, et pour la bombe de puissance, bah, c'est pareil, mais en boule morphing.
Oui, parce que j'en rappelle, on peut sélectionner la bombe de puissance alors qu'on n'est pas en boule morphing, et donc elle ne marchera pas.
Alors, c'est la base des techniques secrètes, mais effectivement, c'est complètement con quand ils pensent.
Ouais, mais c'est un peu. Alors après, peut-être que ça a servi à autre chose à un moment dans le développement, mais c'est vrai qu'en termes de contrôle, c'est. Je trouve un peu laborieux. On s'y fait, hein, je veux dire, on y arrive. Mais.
Surtout qu'en fait, dedans, tu vas avoir aussi deux options qui sont le scanner, le X-ray scanner de mémoire. Et le grappin, qui sont des trucs assez situationnels, alors que les missiles, tu vas t'en servir tout le temps.
Ouais.
C'est vrai que quand tu dois faire le tour pour. Quand t'es au super missile, que tu veux revenir au missile, que tu dois faire tout le tour, t'es là genre. Ah ouais, par contre, lui, il continue à me lancer des lasers, le boss. Hein.
Et puis en plus, t'as le côté aussi, parce que tu peux activer ou désactiver certains éléments de ton armure, ce qui est complètement con sur certains éléments d'ailleurs.
En fait, c'est que sur le beam où c'est intéressant.
C'est ça, mais du coup. Si tu dois changer de rayon, donc t'as le rayon de puissance, le rayon de glace et le rayon qui fait des...
Le plasma aussi.
T'as le wave, t'as le plasma et t'as le spazer.
Plasma aussi. Et donc oui, si tu dois changer de rayon, faut passer obligatoirement par le menu de pause. Donc t'es obligé de faire start, puis R pour passer à Samus, puis activer ou désactiver le truc, sachant que tu peux par exemple, par erreur, désactiver le costume Varia, hein, c'est possible.
Et mourir dans la trace souffrance.
M'apprenez qu'on peut désactiver des objets.
Oui, parce que ça sert à rien en fait.
Mais c'est une personne chose. Ça sert à changer quand tu fais ton shield beam, une technique secrète à la con, ça sert à changer de type de bouclier, quoi, en gros. Mais c'est vraiment. Autrement, ça ne sert à rien. C'est très très bizarre. Si tu peux désactiver le space jump, c'est-à-dire le fait que Samus saute vachement plus haut, parce que des fois c'est un petit peu casse-couille, surtout quand elle attaque en vrille, en fait. C'est tout, quoi. Sinon, ça ne sert à rien.
Et encore une fois, tu peux tout désactiver, c'est ça qui est complètement débile, ça. Tu peux désactiver la boule morphing.
Du coup, Metroid can crawl. à ce petit même univers.
Ah, ça fait plaisir qu'on ait réussi à le citer.
Voilà, c'est le cas depuis le début. Hein.
Ah ouais, non, mais c'est pas évident.
Il y a ça comme défaut, il y a le fait que, bon, il y a quand même des secrets un peu trop cachés, un peu trop secrets.
Mais il y a des trucs un peu perchés en termes de contrôle aussi, hein, je veux dire. Tant les sauts muraux, tu peux le deviner, le truc vertical. Là,
le Shine Spark, ça commence déjà à être plus compliqué.
Le truc de base qui te permet de faire du vertical, non. Le truc qui te permet de faire du diagonal, oui. Je sais pas si c'est ça le Shine Spark.
Chain Spark, c'est quand tu étais
quand tu fonces en speed booster.
T'arrêtes et après tu sautes.
Ouais.
Mais ça, mais donc celui-là n'est pas si compliqué que ça.
Tu ne sais pas de base que... Enfin, tu sais que de base, tu peux le faire vélo. Après, c'est à toi d'expérimenter que tu peux le faire dans 8 directions.
Je pense que tu le vois pas dans, dans la cinématique de démo, d'ailleurs. Le Shinespark.
Possible. Possible. Mais c'est vrai que, bon, ça reste un truc un peu abscon. Après, je sais pas si vous voulez parler un petit peu de techniques secrètes et nous expliquer comment elles fonctionnent, parce que c'est vrai que là aussi, c'est des trucs un peu bizarres.
Les secrets.
Allons-y. Alors, un truc secret un peu rigolo.
Le saviez-tu, un truc secret un peu rigolo, et ben vous pouvez charger. Alors, un truc secret un peu rigolo, mais que dont vous vous servez inconsciemment, quand vous chargez votre rayon et que vous faites un saut, pas un saut, un saut où Samus se met en boule.
Oui,
c'est pas une upgrade, mais voilà, un saut où elle fait une espèce de petite vrille et tout ça. Si vous avez votre rayon de charge actif, eh ben vous faites des dégâts aux ennemis, parfois même vous traversez certaines hitbox de rayons d'autres ennemis. Ça, c'est un truc, vous pouvez vous en rendre compte un moment. C'est utilisé à balle dans Metroid Fusion, mais c'est là que c'est apparu, c'est dans Super Metroid. L'autre truc qui commence à devenir rigolo, quand vous chargez un rayon, que vous sélectionnez la bombe de puissance, que vous faites une petite manip à la con du style vous mettre en boule morphing, vous activez ce qui s'appelle le Shield Beam, donc le rayon bouclier, et selon le rayon que vous avez, ça a des effets différents. Par exemple, quand vous avez le rayon de glace, ça fait des 4 petites particules de glace qui tournent autour de Samus et qui la protègent, qui font des dégâts aux ennemis qui arrivent et tout. Quand c'est le rayon à ondes, vous avez pareil, 4 particules qui forment un X autour de Samus en gravitant et en revenant vers elle. Des trucs un peu rigolos comme ça. C'est pour ça que ça sert de désactiver les rayons.
Putain, quelle arnaque.
Et sinon, vous avez le truc que je pense qu'il y a ça fait les espèces de petites démos qu'il y a sur les écrans titres, quand vous ne les touchez pas à votre manette, ça vous lance un petit bout de jeu. Il y a le Crystal Flash, et alors là, c'est technique. En gros, quand vous avez moins de 50 PV, que vous avez un minimum de 10 missiles, 10 super missiles, 11 bombes de puissance, il faut se mettre en boule morphing, sélectionner les bombes de puissance, maintenir bas, L, R, et tirer, et maintenir la touche de tir. Et là, en fait, vous allez claquer une bombe de puissance, et en fait, Samus va faire une espèce de... va sortir de sa combinaison dans une espèce de bulle qui va la soigner de je sais plus combien de PV. Et d'ailleurs, le Final Smash de Samus dans Super Smash Brawl est inspiré de ça. Fait qu'elle récupère son armure, et ça va vous soigner quasiment toute votre vie. Au prix de 10 bombes de puissance, 10 missiles et 10 super missiles. Si c'est pas cool,
j'apprends. Non mais moi aussi j'apprends des trucs parce que en fait ça fait partie des trucs d'ailleurs un peu bizarre dans les défauts de Super Metroid aussi. Les salles de recharge d'énergie sont séparées des salles de sauvegarde qui sont elles-mêmes séparées des salles de cartes qui sont enfin tout est séparé, c'est-à-dire quand tu sauvegardes ça ne recharge pas tes missiles, ça ne recharge pas tes super bombes. Donc tu te retrouves exactement comme tu avais dans le tout premier Metroid à avoir des espèces de puits d'ennemis que tu peux tirer à l'infini. Tu peux aller, t'as des petites bestioles qui volent, des petits insectes, que tu peux leur tirer dessus à l'infini, et on sort à l'infini pour recharger ta vie, tes bombes, tes super missiles, et ainsi de suite. Donc c'est un peu lourd en vrai.
Il y en a souvent avant les boss, c'est marrant.
Ouais, non, mais c'est ça.
Ouais, les petits tuyaux à ennemis qui...
Oui, c'est ça. C'est le fast-food. Au lieu que les salles de sauvegarde te remettent de la vie aussi, quoi. Tu vois, le truc complètement... Enfin, tu vois, c'est pareil. C'est là que tu sens un peu le poids des années malgré tout, parce que ça, c'est un truc qui
est devenu un standard après, quoi.
Ouais. Maintenant, t'es complètement soigné, généralement, en salle de sauvegarde. Ils filent pas les missiles. Oui. Mais
ils filent pas les missiles, non, parce qu'il faut peut-être pas exagérer.
Ouais, faut pas déconner non plus.
Parce que c'est vrai que ça, c'est un poil lourd. Mais du coup, oui, sacrifier 10 missiles, 10 super missiles et 10 power bombs ou 11 power bombs. Et puisque voilà, pour pouvoir se soigner intégralement, dans certains cas, c'est peut-être plus pratique que de buter les ennemis pendant 5 minutes d'un tuyau.
Ça, c'est l'héritage du premier Metroid. les petits tuyaux qui balancent des
ennemis. Oui,
des
non, ennemis. En plus, oui. Mais dans le premier Metroid, c'était encore plus horrible, puisque quand t'avais un game over, tu revenais à ta dernière salle de sauvegarde, mais avec seulement 30 points de vie.
Fallait direct farmer les trucs.
Fallait direct.
Vous comprenez pourquoi il a été remaké ce jeu?
Ça explique beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez revenir un petit peu sur les héritiers de Super Metroid? Alors c'est vrai qu'on en a parlé déjà il y a quelques semaines et tout, mais
il y en a pléthore.
Il y en a pléthore. Je sais pas si ça vaut le coup d'en reciter quelques-uns, Hollow Knight.
Ouais, Ori, après, on peut noter quand même que la série Metroid n'a pas vraiment essayé de dépasser Super Metroid, concrètement.
Donc, ils sont allés faire autre chose.
Si, il y a Other M quand même.
Non, mais non.
Oh, oh le bâtard.
On avait dit que ça resterait une bonne émission.
Mais je déclare.
Ça, je veux dire Federation Force aussi, si tu veux. Mais...
Oh les bâtards.
Non, mais en vrai, moi, ça me fait rigoler parce que Samus, elle est vraiment trop mignonne dedans. En mode chibi et tout.
Oh mon Dieu, mais quelle horreur. Non, mais c'est vrai que je vous rejoins là-dessus. J'ai l'impression que finalement. Enfin. C'est un jeu hyper moderne, malgré les défauts qu'on vient de citer. Ça reste un jeu hyper moderne dans sa narration, dans sa façon de fonctionner. Finalement, ils ont trouvé le bon équilibre dans la formule. Donc, oui, pourquoi réparer ce qui n'est pas cassé ?
En fait, quand tu regardes les autres Metroid, à chaque fois... les Metroid 3D, c'est un petit peu à part. Mais dans les Metroid 2D, Fusion, ça va être un truc très narratif.
Ouais, très dirigiste, mais qui a un propos derrière. Mais ouais, effectivement, très dirigiste, très narratif.
C'est inspiré de Metroid 2, bah, d'ailleurs, qui se passe aussi près de SR388, hein, comme quoi il n'y a pas de hasard. Zero Mission va reprendre le premier Metroid en essayant d'ajouter quelques trucs de Super Metroid. Il reste quand même... bien la main aussi pour t'aider à avancer et il y a aussi une dimension un peu plus narrative. Alors ça c'est un truc de Sakamoto en réalité, hein. Il aime bien raconter des histoires lui. Hein.
Overheim.
Et Dredd, c'est un peu différent. Tu sens que ça veut s'inspirer de Super Metroid et en même temps ça essaie de se faire ces petits trucs, notamment avec les ennemis, je crois, c'est ça le nom des robots.
Ouais, yes. les
donne des phases un peu différentes.
Des phases un petit peu différentes, mais après le Dredd est aussi extrêmement dirigiste, c'est juste qu'il est d'une façon
qui le cache.
Voilà, tu te rends pas compte immédiatement.
Après Dredd, pour le coup, de tous les Metroid 2D sortis après Super Metroid, c'est celui qui a vraiment implémenté des éléments de séquence breaking faisable sans glitch.
Ouais, ça c'est hyper cool pour le coup.
Il y a possibilité de récupérer quelques éléments un peu en avance. Moi, je crois que j'avais fait une seconde partie avec l'attaque en vrille beaucoup plus tôt que prévu dans le jeu. Je peux dire qu'il y a des boss, il tenait pas longtemps, c'était très fun.
Oui, ça, je me doute que ça doit commencer
Les soldats Chozo qui cassaient les couilles, je fais attendez, je vais vous sauter dessus, vous allez mourir.
Mais ouais, Dredd est vachement plus jeu d'action plutôt que comparé à Super Metroid qui, quand même, ressemble un peu plus à une espèce de jeu de réflexion sur des niveaux dans lesquels tu peux balancer des missiles à tout va. Mais voilà, on est plus sur une espèce de truc d'un grand puzzle. C'est de résoudre petit à petit.
Finalement, ouais. Est-ce que le plus grand héritier de Super Metroid, ce serait pas Dark Souls ?
Ah le bâtard.
Putain, elle a vraiment décidé de niquer l'émission. Hein.
Ah, ça reste à l'heure actuelle, je pense, le premier Dark Souls, le jeu où t'as un monde gigantesque, où t'as des raccourcis partout, t'as des secrets partout, t'essaies de te repérer. Et t'es un peu laissé seul aussi. Donc,
c'est vrai que de ce point de vue-là, ça se tient.
Non mais je...
Ori, moi je dis Ori.
Voilà, on peut se moquer un petit peu, mais c'est vrai que... Enfin, en dehors du gag, Dark Souls serait peut-être effectivement le meilleur héritier de Metroid, au sens où, comme tu disais, hein, la carte complètement interconnectée avec des raccourcis.
Les contrôles pourris.
Oh la vache, ça y est, les boutons qui sont pas aux bons endroits, le bouton de saut qui n'existe pas.
Non mais voilà, mais finalement, on est pas très loin de ça. Hein. En réalité, on n'est pas si loin que ça.
Cette impression d'être un peu damné, d'être un peu tout seul. Ouais.
D'être seul. Par contre, je remarque qu'il ne faut pas craquer une humanité pour récupérer on ne sait pas trop quoi, mais qui permet de passer le portail.
C'est de la connerie, les humanités. Il faut arrêter.
Oui, alors après, Dark Souls a d'autres secrets encore plus abscons que dans Super Metroid.
Non mais attends, Super Metroid, au pire des cas, t'as pas vu la petite dalle quelque part que tu peux bomber. Dark Souls, t'as pas vu le boss parce qu'en fait, il y avait juste une petite porte. C'est bon, hein.
Bah oui, mais tu vois, regarde, Super Metroid est plus abscon encore parce que en faisant ton rayon bouclier, tu peux modifier désactivant d'autres trucs en réactivant d'autres.
Moi je dis juste, t'as pas de feu de camp.
Bah c'est ça les salles de sauvegarde, non ?
C'est important. Bref, on est en train de dire des conneries, donc on va peut-être s'arrêter là.
Oui, je pense qu'on a
fait le tour. Jouez-y, c'est bien.
Oui, en vrai, en plus, il y a vraiment pas d'excuses. Encore une fois, hein, même
il est court aussi.
Le jeu est relativement court.
En fallait 10 heures si vous traînez, vous l'avez fini.
Ouais, voilà. Moi j'aurais dit oui, 6-7 heures pour le terminer, un peu au ras des pâquerettes.
Et au pire, il y a la solution internet.
C'est ça ce que j'allais dire, c'est pas hésiter à regarder la solution, quoi.
Et il est sur le, encore une fois, il est sur le Nintendo Switch Online avec votre abonnement si vous en avez un. Donc il n'y a aucune excuse. Et au pire des cas, j'encouragerais même tout le monde à faire, je sais pas, même juste une heure, juste pour se rendre compte à quel point le truc est assez ouf. Dès le début, en termes de narration, en termes de, en termes d'environnement et tout, ça permet d'avoir un bon aperçu et de se rendre bien compte de tout ce qu'offre le jeu en finalement très peu de temps.
Rappelez-vous toujours l'année de sortie quand vous le faites, quand vous faites l'intro et tout ça. Je dis, mais t'inquiète, ça quand même. Waouh.
Il te l'affiche quand t'allumes le jeu.
Oui, en plus, tu peux pas le rater.
Les mecs savaient. Ouais,
vraiment, toute la partie, on va dire introductive entre guillemets, jusqu'à ce que t'aies la power bomb, elle est vraiment très bien faite. Fortement, et si vous avez accroché, faites le reste du jeu parce qu'en fait, vous avez. On restera les deux tiers grand max. Quoi.
Oui, c'est ça. Puis en plus, comme on l'a dit, une fois qu'on a récupéré la power bomb et je crois que le rayon de glace, basiquement, après, le jeu est pas full open, mais quasiment. Donc, bon, bah là, faut y aller, quoi. C'est quand même dommage de ne pas le terminer. Mais voilà. Encore une fois, même juste la première heure et demie, je pense, vaut largement le coup. Ne serait-ce que pour se rendre compte du truc. Bref, allez, on va se quitter là. On va vous faire, nous, de très gros bisous. On se retrouve dans deux semaines. Normalement, on devrait parler du nouveau Mario et Luigi, puisqu'il sort vendredi.
Demain.
Ou demain.
C'est jeudi maintenant.
C'est jeudi maintenant. Voilà, donc on devrait parler du prochain Mario et Luigi, si tout va bien. On avait déjà une belle rétrospective dessus qu'on vous invite à réécouter. Et du coup, on vous fait des gros bisous et on vous dit à dans deux semaines. Et je suis désolé pour le podcast qui n'était pas là la semaine dernière, qui n'est pas encore là cette semaine. De la semaine prochaine, promis, vous avez les deux.
Voilà. Mortal démission.
C'est pour l'armistice, on va avoir un double de jobard.
C'est ça. On va faire une double pour l'armistice. Bref, bon, allez, gros bisous et à la prochaine.
Bisous.
Des bisous.